Coucou, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique des jeux de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir mes invités en achetant leurs jeux. Bonne écoute.
Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que vient de dire Darky.
Il n'est pas là.
Franchement, ça
en
n'a
fait,
pas de sens.
En fait, je trouve que ses arguments sont un peu creux et vides.
Moi, je trouve que carrément, il fait comme s'il n'était pas là. Mais il est là.
Il est toujours un peu là. Il est toujours un peu là, puisqu'il s'occupe des sites internet. Darky est sur les internets.
Internet.
C'est le roi Darky, yeah. C'est l'interview que tu veux sur ta cassette. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast.
J'ai pas la ref.
La cellule. T'as pas la ref, mon œil. Ouais, c'était le roi Enoch. Voilà, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule avec Jérémy
Klein. Et on te casse déjà le podcast. Bonjour.
Ça va la pêche?
Non, attends, deux secondes, je refais. Bonjour Darky.
Ah oui, c'est vrai qu'il nous écoute en x2, exact.
J'ai envie d'essayer aussi. Bonjour Darky.
Et les autres qui parlent, qui écoutent normalement, bien sûr.
Tu m'as explosé les oreilles. Bon, et nous sommes aujourd'hui avec Jérémy Klein et Flavie.
C'est déjà le bordel, désolé.
C'est déjà le boxon. Pour parler, justement, d'une source de bazar autour des tables.
Pas forcément.
Il s'agit des enfants. Nous allons parler de jouer avec des enfants dans des parties de jeux de rôle et dans le jeu de société.
Et j'avais pas compris ça. Moi, je pensais qu'on lançait les gamins quand tu disais jouer avec les enfants.
Et tu apportais déjà, avant même que le podcast ne commence, Jérémy, une distinction entre jouer...
D'un point de vue professionnel, parce que tu me parlais justement de jouer à la ludothèque avec des enfants.
D'accord, ouais.
Et puis jouer avec ses propres enfants, qui du coup n'est pas la même démarche.
Voilà. Alors du coup, Flavie, vu que c'est toi entre autres qui nous a proposé cette émission, est-ce que tu voulais plutôt parler de jouer avec des enfants d'une façon générale ou plutôt jouer avec 16 enfants?
Moi je pense jouer avec des enfants d'une façon générale. D'accord. Et ensuite arriver sur jouer avec 16 enfants.
D'accord, ok, ça marche. Je voulais savoir parce que c'est quand même pas tout à fait le même sujet. Tu vois, dans un cas on va parler des émotions... Et dans l'autre, on va plus être dans la technique, entre guillemets, d'être avec des enfants. Tu vois.
Moi, je pense la technique d'être avec des enfants. Moi, c'est ça qui m'intéressait.
Ok, d'accord.
Que sur jeu de rôle ou jeu de société aussi?
Jeu de rôle, moi, j'avais envie plus.
Alors, après, on sait qu'en ce moment, les frontières deviennent quand même vachement floues maintenant. Déjà, le jeu de rôle, c'est un jeu de société, déjà, pour commencer.
Oui, donc, je parlais de manière... Est-ce que moi, je parle d'un point de vue ludothécaire ou dans ma pratique générale ou dans mes petites pratiques d'atelier jeu de rôle que je peux faire avec des enfants?
Ok.
J'ai un truc à aller chercher.
Je t'en prie.
Donc là, c'est la pause. Donc on peut dire n'importe quoi.
On dit rien pour permettre à celui qui monte après de savoir ce qu'il doit couper. Elle va bien te faire foutre, la personne qui monte. Va bien te faire foutre. Ça prend combien de temps ? T'avais une idée derrière la tête quand t'as proposé cette émission ? Moi, j'ai déjà plein de trucs à dire.
L'un des trucs que j'ai en tête quand je propose cette émission, c'est parce que je connais des gens en fait qui ont joué avec des enfants. Et à chaque fois, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'ils me racontent sur la surprotection de l'enfant, etc. Et sur le fait que souvent, je trouve qu'on propose aux enfants des contenus peu intéressants. Et j'aurais bien aimé parler de ça.
Est-ce que tu peux donner des exemples de contenus pas intéressants?
Par exemple, ils leur font jouer à un jeu qui, à la base, me paraît tout à fait pertinent, Petite Sorcière, ou les trucs de Harry Potter, mais ils suppriment tous les trucs qui vont apporter en fait, de la confrontation aux habiletés sociales. Genre, on pré-mâche toutes les difficultés parce qu'on soupçonne qu'ils ne vont pas être capables de les résoudre. Et ça m'agace.
Alors là, okay. Je suis d'accord avec toi, je pense. C'est un truc, moi je dirais même les quelques scènes, parce que c'est des scènes, hein, quand je rencontre des enfants que j'ai pu faire du jeu de rôle, généralement je les vois une heure. Donc, du coup ça reste de l'ordre de la présentation rapide du jeu, d'un système de jeu inventé à la va-vite avec quelques jets de dés. Et ensuite je commence in media res, et c'est dans une situation qui n'est pas agréable. Et l'idée, c'est justement de dire, il y a une difficulté, comment vous allez faire pour gérer le truc? Est-ce que vous allez vous mettre ensemble? Est-ce que vous allez partir chacun de l'autre côté? Là, je leur laisse libre cours, mais s'il n'y a pas de problématique qui est vite posée, en tout cas, moi, dans mes scénettes d'une heure, on va perdre du temps, quoi. Et puis ça ne va pas être drôle, aussi bien pour nous que pour eux. Parce qu'au bout du compte, quand on a des souvenirs d'enfants, ce qu'on regardait déjà en dessin animé, c'était aussi des héros qui étaient dans des situations assez dangereuses. Enfin, ouais. Je pense à Ulysse 31, parce que là, je te vois.
Enfant des années 80.
Oui, mais enfant d'aujourd'hui avant... aussi, si on respecte... Alors, ouais, je te laisse finir. Vas-y.
Ben, même avant, je veux dire, dans toutes les histoires d'enfants, je pense qu'on va venir dans cette idée-là. C'est, les contes, déjà, elles sont bien costauds. Ouais. Le petit poussé, Barbe Bleue, on est sur du truc... Qui est bien galère. Et nous, dans les dessins animés, en effet, des années 80, mais je pense même plus tard, hein, Avatar, par exemple, a aussi des enjeux qui ne sont pas légères.
Non.
C'est même très intéressant comme série. Intéressant. Je suis fan, moi.
Et donc, du coup, Ulysse 31, je te dis, c'est là, c'est la première image que j'ai en tête, mais on prend citer n'importe quelle autre. Ils sont dans une situation où tu dis, waouh, j'ai pas envie d'être dans leur situation. Déjà perdu au milieu de l'espace, toute la famille qui est piégée dans un sommeil profond, et puis il va falloir visiter des planètes inconnues où il va falloir confronter mille dangers. Mmh. Ben oui, ça fait un peu peur, mais en même temps, ça met de l'enjeu, et puis on a envie de vivre l'aventure, et en tant que gamin, on a envie de la vivre. Donc. Bon.
Parenthèse, pardon, excuse-moi, je croyais que tu avais fini. Ulysse 31 est rediffusé en HD en ce moment à la télévision française. Et donc voilà, donc c'est aussi l'occasion de dire que j'en permets, je fais un peu de public reportage au passage pour dire que j'ai donc publié un jeu de rôle en fanzine d'Ulysse 31 que vous pourrez retrouver sur romaricbriand.fr. Essayez-le, mangez-en, il est bon. Et donc voilà, si vous aimez Ulysse 31, sachez qu'il y a un jeu de rôle gratuit en print and play sur romaricbriand.fr.
Alors, je suis pas venue moi sur ce podcast sans aucune référence théorique. En fait, j'en avais une en tête quand je t'ai proposé le podcast.
D'accord, ok.
En fait, c'est quelqu'un qui s'appelle Diana Baumrind. Alors, je suis désolée, je vais l'épeler parce que ça se trouve, ça se prononce pas. Ça se trouve, ça se prononce Baumrind. B-A-U-M-R-I-N-D. Qui a travaillé en fait sur les caractéristiques de quatre styles éducatifs selon quatre dimensions. Et je trouve que ça éclaire beaucoup de choses sur ce que je vais dire après. Donc je suis désolée, je vais faire un long monologue pour expliquer en fait la théorie de Diana Baumrind. Je suis désolée, je vais expliquer la théorie de Diana, qui à la base s'intéresse en fait aux différents styles familiaux, mais je trouve qu'en fait qu'on soit éducateur, parent, enseignant, ça explique beaucoup de choses.
D'accord.
Alors il y a quatre dimensions. Il y a le témoignage de l'affection, de la sensibilité, de l'acceptation. Moi, je vais appeler ça, dans mes souvenirs aussi de ces articles, je crois qu'elle appelait ça la chaleur, je crois qu'elle est anglaise. Elle appelait ça la chaleur, heatness, si mes souvenirs sont bons. La deuxième dimension, c'est la communication parent-enfant. Donc moi, je vais généraliser ça sur adulte-enfant. La troisième dimension, c'est le niveau d'exigence en matière de maturité. Et la quatrième dimension, c'est la stratégie disciplinaire, l'encadrement, la punition, mais comment on pose le cadre, en fait, c'est surtout ça. Et...
Attends. Et la quatrième, c'est l'encadrement.
C'est comment on pose le cadre. Pour certains, ça va être la punition, etc. Mais moi, je vois vraiment comment on pose le cadre, en fait.
Parce la punition ou la récompense, en fait.
Exactement. C'est pour ça que je parlerai plutôt de cadre, d'encadrement.
Très bien. Ok, ouais.
Je vais vous parler des styles des moins chouettes jusqu'à celui qui me parle. D'accord ?
Ok.
Il y a le style désengagé.
Alors attends. Donc il y a quatre dimensions à la théorie de Baumrind.
Et dans ces quatre dimensions, on va les explorer pour déterminer quatre styles éducatifs.
D'accord. C'est comme il y a quatre et quatre, savais pas. Okay. Ouais. Quatre styles éducatifs, ok.
Dans le premier style, il y a le style désengagé. Bon, tout est dit dans le titre. Hein. En gros, il se désengage de tout. Il n'y a pas beaucoup de témoignages de chaleur, il n'y a pas beaucoup de
communication,
l'exigence en matière de maturité est faible, et il y a très peu en fait d'encadrement, c'est des gamins qui globalement sont laissés seuls en roue libre en fait, et qui sont très très angoissés.
Premier style désengagé, ouais. Ok.
Le deuxième style dont je vais parler, c'est le style permissif, qui à mon avis, dans lequel se situe un des trucs dont je parlerai tout à l'heure. Où le témoignage d'affection, la chaleur, etc. est très fréquent. La communication parent-enfant, par contre, elle va de l'enfant surtout vers le parent. C'est quasiment jamais le parent qui va vers l'enfant. Le niveau d'exigence en matière de maturité est faible. Et du coup, l'encadrement est très faible. Donc, il y a beaucoup de chaleur, mais c'est l'enfant qui pose ses règles. Et donc, c'est un style éducatif dans lequel les enfants sont aussi très, très angoissée, dans lequel va y avoir beaucoup de demandes pour vérifier toujours ce que je suis capable de faire. Les demandes vont toujours, je dis bien toujours, être satisfaites. Si la demande n'est pas satisfaite, l'enfant pète un câble, en gros, et le parent aussi, puisque le parent ne sait pas organiser en fait, le cadrage, et donc va toujours lui demander dans ces cas-là, quelle est ton autre demande, ou alors va s'arranger pour passer à côté, pour éviter de voir, en fait, d'être confronté à ça.
Okay.
Le troisième style, qui est un style
En tant que papa ou maman, j'imagine que vous êtes déjà en train de vous reconnaître dans certains styles.
Le troisième style dont je vais parler, c'est le style autoritaire.
Donc évidemment, ça y est, on arrive enfin à mon style à
alors,
moi.
Alors, figurez-vous que justement, c'est un style qui est très très présent en France. C'est un style très très français, l'autoritaire, c'est-à-dire que les Français se retrouvent beaucoup là-dedans, hein, ça va avec ce qu'ils votent. Hein.
La moitié du monde est comme ça. Hein.
C'est ça.
Non, c'est pas ça. La moitié, justement, loin de là.
Oh là là, attention.
Justement.
Tu vois, tu regardes trop les médias Bolloré. Tu regardes trop Bolloré.
Même pas. C'est qui ?
Alors, dans ce style autoritaire, il y a peu de témoignages de chaleur, d'affection.
Pas d'affect.
C'est plutôt rare, ça veut pas dire qu'il y en a jamais, mais c'est plutôt rare. Les demandes, la communication parent-enfant est unidirectionnelle. On est sur le parent vers l'enfant, donc on est vraiment sur un style d'éducation descendant. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Et comprends que ce que je te dis, c'est Dieu qui te le demande, donc mets en place. Le niveau d'exigence en matière de maturité, c'est ça qui, moi, me gêne, est très, très élevé, trop élevé. On demande beaucoup à ces enfants-là, c'est pour ça que je vous parlais de style descendant, en fait. Parce que dans le style descendant, c'est-à-dire quand on est devant une classe, par exemple, la seule façon pour que ça marche, le style descendant, en fait, c'est que les personnes en face de nous aient un niveau de maturité et d'enseignement en fait similaire, et dans ce cas-là on va pouvoir leur transmettre quelque chose, typiquement la fac et encore, mais sur ce type en fait de style éducatif, du coup on est sur des demandes trop élevées. Et du coup, pour pouvoir tenir ça, c'est-à-dire quand on demande des choses quand on demande des choses trop dures pour l'enfant et que c'est toujours les mêmes qui communiquent, il faut être très très ferme, donc c'est beaucoup de contraintes. Et du coup, quand ça ne fonctionne pas, beaucoup de punitions.
Trop bien.
Et le quatrième style,
trop
qui
bien,
est évidemment...
les punitions. Bien sûr, c'est à ça que je disais trop bien, pas du tout à l'exposé de Flavie, c'était évidemment en punition que je pensais. Oui,
et le dernier style, qui est le style, évidemment, vous vous en doutez qu'il faudrait tous investir, c'est le style directif qu'on retrouve pas mal a priori en Italie. Donc évidemment, la chaleur dans ce style est très fréquente. Il y a beaucoup de sensibilité, c'est un style éducatif dans lequel on donne la primauté aussi à l'expression des émotions, où on va beaucoup guider l'enfant pour qu'il exprime ce qu'il ressent. Dans la communication parent-enfant, elle est bidirectionnelle. Le parent va avoir des demandes vers l'enfant, mais l'enfant va pouvoir avoir des demandes vers le parent. Et pourquoi c'est possible ça ? C'est parce que le niveau d'exigence en matière de maturité, il est élevé, mais pas trop élevé. C'est-à-dire qu'on va se baser sur ce que l'enfant est effectivement capable de faire en fonction de sa maturité. Pourquoi ? Parce que comme la communication est bidirectionnelle, vous connaissez votre enfant. Et voire même, si vous lui demandez à un moment un truc qui n'est pas adapté, il va pouvoir vous le dire. Pourquoi ? Parce que le système du cadre est ferme, mais pas mis en place par punition ou par contrainte, mais par persuasion. C'est-à-dire que l'enfant sait pourquoi il doit faire quelque chose. Parce qu'on le lui a expliqué. Et du coup, en fait, il va essayer et il sait que s'il échoue, il sera guidé.
Ok. Et l'encadrement, alors, du coup ?
C'est ce que je viens de dire, c'est la persuasion, en fait. C'est la conciliation aussi, je crois, dans mes souvenirs de la lecture de ce bouquin.
C'est le fait qu'il comprend les règles.
Il comprend les règles et en fait, il est capable lui-même, par exemple, imaginons qu'un soir, un parent a invité des copains et en fait, la soirée perdure, mais le lendemain, il y a classe. Et ben, les enfants vont venir d'eux-mêmes dire « Hé, en fait, demain, il y a classe, donc on va aller se coucher. »
Tu vois, j'ai mis dans mon résumé, j'ai mis encadrement anarchiste, en fait. Mais c'est ça.
Ouais.
C'est l'intégration, en fait, des lois, compréhension, en fait, des règles.
En fait, c'est la mise en place.
On les respecte parce qu'on les comprend.
Voilà, c'est en fait la personne en face de nous est une personne et non pas un enfant à modeler. C'est une personne à guider. Et ça change beaucoup de choses.
Alors, rapidement, je fais un petit résumé. Donc, on a quatre dimensions dans les styles éducatifs. Première dimension, dimension affective. Deuxième dimension, la communication entre le parent et l'enfant. Troisième dimension, le niveau d'exigence en matière de maturité. Quatrième dimension, l'encadrement, c'est-à-dire le cadre posé. Donc ça, ce sont les quatre dimensions sous lesquelles on va étudier ensuite les styles éducatifs. Donc on a le premier style désengagé, c'est on s'en fout de toutes ces dimensions. Le deuxième style, c'est permissif, où on va mettre l'accent sur l'affect. La relation va plutôt être de l'enfant vers le parent. Une exigence de maturité très faible, un encadrement très faible. Vient ensuite le style autoritaire, où il n'y a pas d'affect. C'est le parent qui dit à l'enfant, c'est du parent vers l'enfant, donc un aspect très descendant. On a une exigence en termes de maturité qui est souvent trop élevée. Donc le mot « trop » est important, c'est pas très élevé, c'est trop élevé. Et on a donc un encadrement plus, puisque pour faire respecter l'autorité du parent, il faut évidemment faire cadrer ferme.
J'ajoute d'ailleurs que dans ce style éducatif... Ouais, bah c'est pas grave. Dans ce style éducatif, il n'est pas rare qu'il y ait des violences ordinaires.
Normal.
Pour maintenir la contrainte.
Normal, j'ai envie de dire. Puis en plus, autoritaire.
Bah oui, c'est la punition.
C'est peut-être pas le meilleur moyen. C'est peut-être pas le meilleur moyen pour imposer son autorité. Mais justement, c'est le style directif, le quatrième style qui répond à ce sujet.
Non, ouais. Hop là, attends, deux secondes, je regarde.
C'est pas le nom du style.
Attends, hop là.
Quatre styles, désengagé, permissif, autoritaire et directif.
Hop là, oui c'est ça, excuse-moi.
Le directif, donc lui, on a plutôt une affection, chaleur plutôt fréquente et avec une expression des émotions régulière. On a une communication bidimensionnelle, c'est-à-dire que l'enfant et le parent échangent et il n'y a pas non pas un aspect directoire c'est le parent qui décide ou c'est l'enfant qui décide, là on échange en fait. La maturité, évidemment, les choix sont flexibles puisqu'ils dépendent des échanges qui ont eu lieu précédemment et l'encadrement. Moi j'ai noté anarchiste, c'est-à-dire que chacune intègre les règles en fait à respecter et comprend parce qu'il comprend en fait pourquoi ces règles sont là. Et chacune est aussi capable dans ce cadre, dans ce style éducatif d'échanger pour renégocier, rediscuter du cadre, etc. Ça vraiment, on est vraiment dans mon truc là. Ok. Ben c'est très bien. Alors, et là, du coup, je vois le parallèle que tu veux faire. Tu veux essayer de nous faire un parallèle entre ça et la façon dont les règles, le système, l'EMJ met la partie en branle.
Ouais, pas seulement, mais en fait, le premier parallèle que je voudrais faire, c'est que très souvent, en fait, quand on a des parents permissifs qui vont vouloir jouer au jeu de rôle, en fait, avec leurs enfants, ou des gens qui jouent au jeu de rôle avec des enfants et qui ont, mine de rien, qui sont habitués à un système éducatif permissif, en fait, ils vont partir du principe que l'enfant, en fait, ne sait pas faire. Parce qu'ils ont, peu de compréhension, en fait, du niveau de maturité de l'enfant en face de lui. Donc, il va y avoir deux façons de faire. Soit ils vont tout guider, soit ils vont mettre en place, en fait, des jeux pas intéressants en supprimant, du coup, la difficulté. Puisque la mise en place de la difficulté leur paraît en fait impossible, ingérable, insupportable, alors qu'en fait c'est ce dont l'enfant a besoin en fait pour grandir. L'enfant, il a besoin de se confronter à de la difficulté en étant guidé.
En fait, c'est des parents qui veulent être parents mais ils ne voulaient pas d'enfants.
Ou alors c'est des gens en fait qui ont envie de masteriser à des gosses mais en fait ils comprennent pas ce que c'est un gosse.
D'accord.
Et du coup en fait ils imaginent que l'enfant ne sait rien et ne va pas être capable de faire. Donc il y a en fait une vision de l'enfant qui moi me gêne beaucoup parce que en fait on part du principe que l'enfant est une chose fragile qu'il va falloir surprotéger et en plus à qui on suppose qu'il va être capable de rien faire en fait. Et c'est totalement absurde parce que l'enfant, s'il est guidé, j'insiste sur en fonction de la maturité. Et en fait, on va pouvoir faire des choses incroyables avec. J'insiste sur le niveau de maturité parce qu'il y a aussi l'extrême inverse où des gens qui vont confronter des enfants en fait à des choses qui sont pas du tout adaptées.
Adaptées, ouais.
Je parle même pas. Alors, le sexe, j'en parle. Voilà, ça évidemment, on évite, mais qui vont les confronter à des scènes de violence, même pour les films hein, auxquels les enfants ne sont pas du tout, auxquels les enfants ne sont pas du tout prêts à être confrontés, y compris dans le jeu de rôle. Moi, j'ai déjà vu des trucs. Je suis là, hop. On arrête tout de suite. L'enfant n'est pas du tout prêt. Je veux dire, il a 6 ans. On se calme. Là, en fait, on est sur du dosage. Le dosage, globalement, on va être très clair. Si vous savez pas, en fait, l'éducation nationale en a plein. Les films, en fait, vont vous apporter beaucoup de compréhension sur ce qu'un enfant d'un certain âge est capable de tolérer, en fait. À un moment, on se renseigne avant de jouer aux enfants parce que c'est un contrat social qui peut être soit, en fait, qu'il faut rendre explicite. C'est-à-dire que l'enfant, c'est comme quand vous jouez avec des gens, vous avez un contrat social dans lequel vous allez décrire les lignes et les voiles. Et bien là, c'est pareil, en fait. Sauf que l'enfant, il n'est pas forcément capable de décrire ses lignes et ses voiles. C'est la différence, en fait, avec l'adulte. Mmh. Parce que lui, en fait, il n'est pas au courant de son niveau de maturité vu qu'il est en train de le vivre et de le développer.
D'accord.
Donc là, en fait, ça va être à l'adulte d'être assez malin pour comprendre qu'en fait, il y a les lignes et les voiles de l'enfant et que même si l'enfant, à un moment, il dit « si ça roule, tout va bien », en fait, ce ne sera pas forcément faisable pour lui de vivre certaines choses. Donc, on se renseigne sur le degré de maturité de l'enfant quand on ne le connaît pas avant de jouer avec lui. On se renseigne avec les gens qui le connaissent bien. Et surtout, on se renseigne sur son âge, en fait.
Oui, oui. Son âge, c'est déjà un bon indice, ouais. Jérémy, est-ce que ça te fait réagir, déjà ? Moi,
ça me fait penser aux gamins qui voient trop tôt Stranger Things, en fait. Où ils ont un côté Alien. Fascination de cette série-là. Et en fait... Ce qu'ils parlent, c'est surtout de leur fascination, mais ils ne voient pas l'histoire parce qu'ils ne sont pas aptes à être affrontés avec ça. Si ça se trouve, ils l'ont vu en plus tout seul, ou même si c'est sans famille. Mais toujours est-il qu'ils ont mis certains âges à Netflix, alors c'est pas discutable, ça peu importe. Mmh. Mais quand on a 10 ans, je ne pense pas qu'on regarde Stranger Things tout seul sans avoir les clés de compréhension.
D'accord. C'est vrai qu'on peut.
Et puis, en fait, les enfants, ils vont tendance à avoir besoin de parler de ce qui les a choqués.
Ouais.
Donc quand un enfant il va avoir vu quelque chose tout seul, il va pas avoir 36 milliards façons en fait de gérer ça pour en fait dans sa tête se dire que non, tout va bien, ses parents ne l'ont pas mis en danger. Il va rationaliser le truc en parlant beaucoup pour montrer qu'en fait il était capable de gérer ça.
D'accord, ok.
Alors que c'est un signe en fait que justement il a fait une sorte d'appel à l'aide inconsciemment quoi.
Alors ça veut pas dire le gamin il peut avoir aimé ça, mais dans ces cas-là il en parle. Il y a différentes façons d'en parler. Si le gamin il en parle de façon systématique tout le temps, qu'il arrête plus de penser à ça, qu'il arrive plus à penser à autre chose, en fait, ben à un moment c'est qu'il s'est passé quelque chose dans l'esprit de cet enfant qui était pas jouable. En
c'est
fait.
Pour ça que moi je parle de fascination. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de ça ne sort pas et que ça vient un sujet tout le temps présent au point que ça l'omnubile et que ça peut lui couper sa concentration en classe ou des choses comme ça.
D'accord.
D'ailleurs, à ce sujet-là, petite parenthèse issue du coup de mon boulot, il y a quelques années maintenant, parce que maintenant je bosse plus en ordinaire, mais j'avais une petite fille qui était nickel et tout, elle était en CE1, elle apprenait bien et tout, et du jour au lendemain, en fait, je la vois s'éteindre, elle est devant sa table, elle a les bras ballants. Et en fait, elle est absente. Elle regarde sa feuille, elle regarde les gens autour, mais elle n'est pas là. Elle arrive de moins en moins à parler. Et vraiment, je commence à être très inquiète. J'en parle aux parents qui me disent « Non, ça roule. C'est vous. C'est toujours nous. » Et puis en fait, je vais voir la gamine. Je dis « Écoute, ma cocotte, je suis inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux me dessiner ce qui ne va pas ?» Et elle me dit « D'accord. » Elle me dessine un clown. Et donc je dis, mais pourquoi tu me dessines un clown, ma poupette ? Et elle dit, faut que tu dises rien. Généralement, c'est pas bon signe quand il dit, il faut que tu dises rien.
Ça commence comme ça, c'est mal. Ouais.
Et en fait, j'apprends que pendant que les parents faisaient la bringue, en fait, en cachette, avec son cousin, qui lui n'a aucune idée de du degré de maturité d'une gamine de CE1, puisqu'il a 16 ans, lui a montré ça, la nouvelle version.
Ça, le clown. Hein.
Ouais. Et exactement. Et en fait, elle est traumate de chez traumate. Elle est incapable d'en parler, de penser à autre chose. Et elle est kéblo dessus constamment, quoi. Donc, on a parlé avec les parents, on a fait ce qu'il fallait pour la poupette, on a vu avec le psy, donc ça, elle allait mieux après. Mais voilà, donc ça, c'est ce qui peut arriver quand on fait pas gaffe au degré de maturité des enfants. Donc, il y a un juste milieu.
Enfin, voilà. Donc, évidemment. Bon, là, on parle du scénario du pire.
Oui,
Flavie. Vraiment, voilà, c'est particulier. Mais alors, on va reprendre. Vous y allez direct là. J'ai l'impression qu'on est à la fin du podcast avant même de l'avoir commencé.
Ça va être intense.
Donc déjà, oui, c'est ça. Donc déjà, moi, premier élément, c'est de dire que le jeu de rôle, c'est un média formidable parce que il économise de l'écran, du temps d'écran. Il économise de la, comment dire, il mobilise plus exactement de l'imagination. Il y a de l'écrit, il y a du dessin, il y a tout ce qu'on veut pour les enfants. Voilà. Pour moi, déjà, il faut commencer par ça. C'est-à-dire que pour moi, le jeu de rôle, en tant qu'activité, en tant que média, il y a tout ce que tu veux pour les enfants, pour les détacher des paradis artificiels, des écrans. Il n'y a pas mieux.
Au-delà de ça, c'est aussi un fantastique média pour travailler ce qu'on appelle les habiletés sociales. On est autour de la table. Et en fait, on va apprendre à interagir avec un groupe.
Clairement.
Et ça, quand on est une famille ou quand on veut être avec des gosses, c'est quand même la base.
C'est quand même génial.
Alors, je rappelle qu'il y a un... Alors, je ne sais plus, c'était quand ? C'était en 2023 ou 2020 ? Je ne sais... Non, pas 2020, parce que... Ok, 2022 peut-être. Bref, il y a quelques années, il y a un plan interministériel qui s'est monté parce qu'on s'est rendu compte que les habiletés sociales, c'était un truc qui était... pas vraiment compris par les Français.
Ok.
Et en fait...
Qui est très sous-évalué par l'éducation nationale.
Ouais. Et aussi parce qu'en fait, aussi par les familles.
Parce qu'on note beaucoup les savoirs. Mmh.
Et en fait, parce que si c'est interministériel, c'est parce que c'est pas uniquement l'éducation nationale. C'est partout, y compris le travail, etc. Et on s'est rendu compte que c'est des choses qui font que dans le milieu du travail, en fait, ça coince. Et sinon, l'État s'en foutrait. Et donc, du coup, moi, je trouve que quand on est une famille... ou quand on va travailler avec des enfants, ou quand on va juste jouer avec eux, en fait, faire un média jeu de rôle qui va permettre à l'enfant de verbaliser des choses auxquelles il réfléchit, de verbaliser les émotions auxquelles son personnage va être confronté, etc., c'est un média fabuleux.
Voilà, exactement.
Pour peu qu'il soit guidé. Et quand on est dans un style éducatif autoritaire où du coup l'enfant ne peut pas exprimer finalement en fait, ses émotions, en fait, ça va être un média formidable pour lui permettre... d'y aller. Mais dans ces cas-là, il va falloir y aller dans un style directif.
Ok. Bon, donc, habileté sociale. Moi, je voulais parler de l'imaginaire à la base, c'est-à-dire de dire que les images, justement, parce que vous, là, vous parliez des films, vous parliez du cinéma, des images où on est passif devant. Je voulais juste dire que là, on est actif. On crée ses propres images. Voilà, c'était pour répondre à ça. Maintenant, là, tu ouvres encore une autre boîte qui est la boîte de l'habileté sociale, effectivement. Et t'as bien raison, le jeu de rôle, ça permet d'apprendre à écouter les autres, d'apprendre à parler devant les autres, de savoir se taire, prendre en considération ce qui a déjà été dit pour créer le contenu fictionnel malléable. Bref, effectivement, c'est vraiment formidable de ce point de vue-là. Jérémy, un élément sur l'habileté, je t'ai vu à un moment donné.
Ouais, moi, c'est ce que j'appelle les savoir-être. C'est ce que l'impression que je fais à la ludothèque, puisque ludo, donc ludique, on voit beaucoup l'aspect divertissement, mais en fait, à la base, magistère ludique, c'est maître d'école. Et que du coup, je dis la différence entre une école et une ludothèque, c'est qu'en fait, dans les écoles, il y a des savoirs et des savoir-faire, et dans une ludothèque, au moins, on peut des savoir-être.
Alors, les savoir-être sont aussi présents à l'école.
Je suis d'accord.
Ouais, bien sûr.
Parce que je suis aussi dans les écoles et je vois aussi comment ça se passe. Mais c'est juste une manière de dire qu'effectivement, les jeux, en règle générale, jeux de rôle, bien sûr, mais dans les autres jeux, les jeux coopératifs notamment, je vois ces enjeux de société et de comment on doit interagir ensemble pour éviter d'avoir « Ah, c'est à cause de toi qu'on a perdu au jeu coopératif parce que tu as fait un OD ». Non, c'est pas comme ça que ça s'exprime. C'est pas la faute de quelqu'un que quelqu'un fait un OD. Donc c'est à cause de Darky.
Qu'on a perdu au jeu. Sinon, c'est à cause de Darky si on fait un OD. Qu'on fait un OD. Effectivement, apprendre à mesurer ses échecs, l'impact de ses actions dans le cadre du collectif, c'est-à-dire de se dire, bah tiens, j'ai fait ça, je suis responsable de ça, et donc là, c'est peut-être ma faute, mais en même temps, il y a le collectif. L'interaction entre l'individuel et le collectif aussi est très important au sein du dispositif ludique en général, du jeu de société en général et du jeu de rôle en particulier. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont très importantes. Mais moi, surtout, donc ça, passer cette petite introduction, parce que pour moi, on aurait dû commencer par là. Maintenant, retournons à ce que tu disais tout à l'heure. C'est que du coup, parce que tu y vois dans le jeu de rôle toutes ces vertus éducatives qu'on a énumérées à l'instant, c'est pour ça que tu fais le lien avec la théorie de Baumhind. Et donc voilà, donc c'est ça. Et alors moi j'ai coutume de dire, mais je ne sais pas si vous allez m'arrêter là-dessus, qu'en fait, il n'y a pas d'enfant. En fait, ça n'existe pas.
Il y a c'est-à-dire des degrés de maturité.
Voilà. C'est-à-dire que moi, en fait, pour moi, quand tu es face à quelqu'un que tu ne connais pas, tu deviens un enfant. C'est-à-dire que tu joues avec la personne. Au début, tu dis « Et si je te dis alors, ça, comment tu réagis ?»
Il va y avoir quand même une différence. C'est que l'enfant, il va avoir du mal à savoir, en fait, surtout s'il vient d'un style éducatif autoritaire ouais. Permissif, il va avoir du mal à être capable de dire quand est-ce que quelque chose va ou va pas.
D'accord.
Et du coup, et ça peut être aussi pour les autres, je parle même pas du les pauvres.
Mais tu crois pas qu'il y a des adultes qui sont restés des enfants en fait ?
Ah, mais
du point de vue de ce que tu parles là, je veux dire.
Oui, mais là, ce que je te dis, c'est comme on parle des enfants, il y a quand même une différence, c'est que l'enfant, il est quand même. Il va falloir quand même être plus régulier encore dans la vérification de est-ce que tout va bien ?
D'accord, ça je l'entends. Hein,
c'est quand même important, ne serait-ce que pour lui qu'il sache que tu es là, que tu ne l'abandonneras pas et que tu vérifies déjà régulièrement. Oui, parce que je parle du contrat social,
c'est des mini-carbosses. Donc en fait, c'est des trucs qui s'appliquent aux adultes.
Mais quand les adultes jouent avec les enfants, ils ont tendance à l'oublier en fait. Ils ont tendance à penser que le contrat social, c'est eux. En fait, et qui s'établit pas en fait, qu'ils ont tendance à penser en fait que l'enfant est trop stupide pour comprendre en fait ce que ça implique. Et donc, du coup, plutôt que faire permettre à l'enfant d'investir cet espace-là, en fait, ils vont tout prendre comme espace. Moi, j'ai déjà vu des MJ jouer avec des enfants qui n'étaient pas leurs enfants. Hein. En fait, tout ce que les gamins avaient à faire, c'était lancer le dé. En fait, ils expliquaient tout à leur place. Parce qu'en fait, ils estiment que du coup, le contrat social, c'est eux qui l'ont. Le contrat social, le principe, c'est que c'est un truc qui est partagé. Mais comme en fait, les gens, des fois, ne comprennent pas ce que sont les enfants parce qu'ils ont plus été en contact avec des gosses depuis qu'ils en étaient, en fait, eh ben, ils vont avoir tendance à oublier ça. Et malgré tout, il y a le degré de maturité qui est à prendre en compte. Et notamment le degré d'habileté aussi langagière.
Ben oui, la capacité à justement exprimer.
Ouais.
Que ces adultes-là font pas la même chose aussi avec quand ils jouent avec des adultes. Est-ce qu'ils ont pas tendance à vouloir justement prendre un peu toute la démarche
en disant, dire.
Je fais ma tambouille, je fais ma cuisine, déguster.
Il y en a qui peuvent faire ça, mais l'adulte, lui, il est capable de dire à un moment, attends, moi j'ai pas décidé que mon dé il fait ça. Alors que l'enfant, surtout en France où on est habitué au style autoritaire, l'enfant il va pas être capable de se défendre. Donc il va pas être capable de dire là je me fais chier. Et du coup ça va être des gosses après quand on leur proposera du jeu de rôle ils feront bof non. Parce qu'en fait on les a pas forcément bien amenés vers ce type de jeu.
Mais c'est intéressant, tu vois, la réflexion de Jérémy elle pousse quand même l'idée que on a une attitude avec les enfants qui est similaire à celle qu'on a finalement avec les autres,
oui.
En fait.
Oui, oui, c'est voilà. Vrai aussi.
En fait, l'enfant, c'est un espèce d'autre. C'est une altérité absolue, au sens où on imagine qu'elle n'a pas encore de normes, elle n'a pas encore de... Tu vois ce que je veux dire ?
On est sur le mythe de l'enfant sauvage, des fois.
On est sur le mythe de l'enfant sauvage, mais complètement, à fond.
Pour ceux, en plus, qui auraient lu des...
Et après, bah,
des trucs un peu flippants sur l'enfant sauvage.
Bah,
et ensuite,
tu penses
fini.
À quoi tu penses bah, à,
par exemple, Sa Majesté des Mouches.
Voilà, c'est ça. Faut le dire, parce que sinon... Si c'est... Ok, voilà, c'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de la vision qu'on a de ce que pourrait être un individu laissé en fait à la merci de la nature, on a envie de dire, ou laissé dans la nature, et ben en fonction de la vision qu'on en a, on va projeter des choses sur les enfants et donc on va adopter telle attitude. Mais en fait cette idée là on se la fait pas uniquement de l'enfant, on se la fait de toutes les autres, toutes les altérités. C'est juste que l'enfant a quelque chose d'absolu dans son, dans son altérité, si tu veux. Il est vraiment absolument autre, au sens de
Alain Duranville. Voilà.
Donc c'est ça. Donc je comprends parfaitement ça. Maintenant, moi, tu vois, en tant que meneur de jeu et qui propose des parties à des enfants très très souvent, je pars du principe que ce ne sont pas des enfants.
Ce sont des personnes.
Ce sont des personnes.
Exactement. Voilà. Et c'est ce que suppose le style directif dans l'éducation. C'est qu'on va avoir des choses à s'apporter des deux côtés. Et pour le coup, c'est très vrai. Enfin, moi, pour le nombre de parties de jeux de rôle que j'ai faites, il y en a certaines où j'étais... Enfin, même où on a des jeunes joueurs qui nous ont masterisés, où j'ai passé des super moments, en fait. Parce qu'en fait, à un moment, il faut se dire que la personne en face de toi, elle va pouvoir t'apporter des choses et que tu ne vas pas être le seul à lui apporter quelque chose.
Mais tu vois, j'ai l'impression que le style directif, c'est un peu le style absolu parce qu'il engage les trois autres styles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des moments où pour être dans le directif, bah, tu dois être autoritaire.
Alors, je ne suis pas d'accord, justement. Alors, attends. Parce que l'autoritaire, justement, il pose le cadre sans l'expliquer. L'autoritaire, c'est juste, c'est comme ça et puis c'est tout.
Bah oui, mais si tu veux que la personne comprenne en face de toi qu'il y a des autorités et de l'autoritarisme dans le monde, il faut quand même, dans le jeu de rôle, lui montrer que ça existe.
Oui, mais du coup, on va pouvoir le faire par la fiction.
Oui, justement, tu vois, le type d'éducation directif, il suppose de bien connaître en fait les autres types. Et par exemple, j'ai envie de dire, il y a des moments dans le jeu de rôle où tu laisses, bon, j'ai un exemple en tête, par exemple, dans Secret of Eons, quand on a joué avec Maëlle, je l'ai laissé volontairement, j'ai été très permissif, je l'ai laissé volontairement faire tout un tas d'erreurs pour à la fin... En fait, lui montrer, tu vois, quelque part, regarde, voilà, t'as fait la politique de la terre brûlée, regarde maintenant le résultat, regarde dans la fiction qu'est-ce qui se passe et tout ça. Quelque part, tu vois, j'ai été permissif, j'ai été autoritaire, j'ai été, tu vois, en tant que MJ, tu passes en fait d'un mode à l'autre pour être directif.
Mais en fait, l'idée, pour moi, quand on va jouer au jeu de rôle avec des enfants, c'est d'être uniquement dans le style directif. Par contre, pour reprendre ce que tu as fait avec Maëlle, tu l'avais prévenu. Tu avais dit « Attention, si tu continues à faire ça, le grand méchant, il est comme ci, comme ci, comme ça. Il va faire ça, ça, ça. » Donc en fait, c'était un choix de la part de Maëlle de continuer à faire ça. Mais l'idée qu'on puisse être permissif, etc., je veux dire, quand il y a les règles, si on suit les règles du jeu de rôle qu'on va faire, en fait... Ça va, le style va arriver. En fait, ça dépend aussi quel type de jeu on va faire jouer les enfants. Tes jeux, ils sont de base. On pourra en parler après. Mais ce sont des jeux directifs, en fait, puisque c'est des jeux qui supposent de pouvoir parler et questionner le MJ, et que le MJ aussi puisse questionner ses joueurs. Ce n'est pas le cas de tous les jeux de rôle.
Alors là, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que tu essayes d'analyser les dispositifs que les différents types de jeux de rôle mettent en place, que les règles des différents types de jeux de rôle mettent en place, les systèmes que différents types de jeux de rôle mettent en place, à l'aune de des styles éducatifs.
Ouais.
Ok, mais ça, c'est un podcast à part entière. On parle plus enfants, là.
Mais c'était une digression.
Oui, mais ok. Parce que là, c'est abyssal, en fait.
Oui, oui.
Si tu commences à rentrer là-dedans, il faudrait voir... Il faudrait des critères d'évaluation, tu vois, de chaque règle et comment elles sont mises en place après autour de la table pour montrer ce qu'elles provoquent. C'est abyssal.
Quoi qu'il en soit, en tout cas, pour jouer avec des gosses, comment ça se passe ? Pour moi, la première étape, c'est de poser un contrat social avec l'enfant. Assez clair. Mais en fait, il va falloir rappeler, parce qu'en fait, les gens que je connais qui jouent avec les enfants, bah, ils ne le font pas, en fait.
C'est incroyable.
Généralement, en fait, on va supposer que l'enfant, il n'en a pas besoin. Qu'on suppose que du coup... Alors qu'en fait, c'est ceux qui ont le plus besoin de précision. Donc c'est pour ça qu'en fait, souvent, les gens en fait, qui jouent avec les enfants, ils vont avoir tendance soit à trop diriger, soit à supprimer toutes les difficultés. Parce que comme le contrat social, il n'a pas été établi, on compense comme on peut.
Ouais.
Donc, établissez, c'est comme avec les grands, un contrat social, un « je ne t'abandonnerai pas », tous les trucs d'Emily Carbos.
En fait, ce qui est incroyable, c'est... Excuse-moi, je t'arrête. En y réfléchissant, parce qu'on a fait récemment, ça commence à dater de plusieurs mois maintenant, mais un podcast avec Jack sur la sécurité émotionnelle en live. Et en fait, je me rends compte que les consignes qu'on va donner là, ça va être exactement les mêmes. Donc, en fait, c'est juste... Alors, du coup, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'enfant. L'enfant, c'est pas un autre, c'est pas une altérité absolue. C'est, en fait, c'est une fragilité absolue. Et donc, du coup, c'est forcément un objet de care, un objet dont on, auquel on doit
faire attention. En fait, c'est plutôt une personne qu'on a tendance à objectifier. Et alors, moi, ça me dérange, en fait.
Alors, ça, c'est pareil. Ok, d'accord. Ouais. Ah oui, ça sent le gâteau là, Flavie. C'est l'heure d'aller regarder. Mais c'est un objet fragile en fait.
Le terme personne, pour moi, c'est ce qui est le plus parlant. Parce que je considère même l'adulte est fragile.
Oui, voilà, c'est ça. Mais sauf que l'enfant, excuse-moi, prends ton micro si okay, tu veux continuer à discuter. Mais le terme personne pour toi, tu disais, est pertinent parce que même l'adulte est fragile. Mais en fait, l'enfant, c'est ouais. En fait, c'est qu'on considère l'enfant comme une comme étant une personne d'une fragilité absolue. Alors qu'on considère l'adulte comme une personne déjà solide.
Est-ce que vous connaissez la différence? Enfin, il y a. J'ai lu un bouquin récemment d'un médecin. Enfin, un gros extrait d'un bouquin d'un médecin. Je me rappelle plus son nom. Qui parlait en gros de la notion d'objet de soin, sujet de vie, qu'on retrouve en fait pas mal dans les hôpitaux, le médico-social, etc. Le truc de ce bouquin, mais qui à mon avis là peut aller dans ce qu'on raconte, c'est que on peut être tenté, quand on est dans le care notamment et dans ce type de métier-là, de considérer la personne en face de nous uniquement comme un objet de soin. C'est-à-dire que nous, on sait ce qu'on doit lui apporter, et donc du coup, on va lui apporter les soins nécessaires en mettant de côté le fait que cette personne soit un sujet de vie. Un sujet de vie, donc avec une subjectivité, des besoins spécifiques, des envies spécifiques.
C'est l'apport du médecin, c'est-à-dire que le médecin, il va s'occuper du physique, et puis du coup, on a fait la dichotomie à la Renaissance entre l'objet physique, le corps, et le psychique, et donc
l'âme à l'époque.
L'âme, voilà, ouais. C'est ça. On a vraiment séparé ça, et on a gardé ça, je pense, pendant longtemps, et encore à l'heure actuelle, même si, effectivement... C'est des sujets qui reviennent en disant le corps et l'esprit, en fait, c'est quand même la même chose. Ils sont intégrés ensemble. Mais oui, je pense que la plupart des médecins partent sur le principe que j'ai une blessure, je la soigne. On s'en fout que ce soit un homme, une femme, un enfant.
Et du coup, c'est des trucs qu'on va pouvoir retrouver qui, à mon avis, me semblent assez pertinents quand on parle des enfants, parce que les gens, ils vont avoir tendance à objectifier les enfants comme des objets de soins. De soins particuliers, il va falloir prendre soin d'eux, faire attention à eux, surtout faire attention à ce que rien ne leur arrive, comme dans le monde de Nemo. Oui, mais s'il se passe ça, en fait, ils risquent de jamais rien leur arriver. Ouais. Sauf qu'un enfant, c'est pas uniquement quelqu'un à qui on change des couches, à qui on prépare des repas à heure fixe, etc. C'est aussi quelqu'un qui a sa propre subjectivité. Et en fait, le jeu de rôle, c'est une rencontre de subjectivité autour d'une table. Et donc, du coup, on ne va pas pouvoir, si on le fait, si on peut, mais si on fait comme si cette subjectivité n'était pas intéressante ou pas importante parce qu'on est là avant tout pour faire qu'il ne lui arrive rien, eh bien, en fait, ça ne marche pas que ce soit dans la vraie vie, mais comme autour d'une table de jeu de rôle, en fait.
Oui. Donc on reprend à cette phrase de Nemo, hein, si tu veux qu'il ne lui arrive rien, il risque de ne jamais rien lui arriver. Qui est une phrase
de Dory.
Incroyable, qui est une phrase incroyable, qui est tellement éternelle en fait. C'est, tu pourrais mettre ça sur le fronton du temple de Delphes, ou je sais pas où, tu vois. c'est génial. Donc effectivement, si tu fais trop attention en fait, si tu objectives trop la personne qui est en face de toi, tu la prives aussi d'une agentivité en fait.
D'une agentivité, et en plus, ce qu'on a en face de nous quand on a des enfants, c'est une subjectivité en développement, donc qui a besoin de se confronter à des problèmes à résoudre, qui a besoin de se confronter à des histoires à résoudre.
Ouais.
En fait, et du coup, si on lui permet pas ça dans le jeu de rôle, c'est trop triste quand on joue avec eux, en fait.
Oui, mais c'est justement le lieu pour ça. Donc.
Mais oui. Donc, en fait, c'est justement là où il va falloir, en fait, il va falloir accepter d'y aller, en fait. De proposer des histoires intéressantes, etc. De pouvoir leur proposer comme les grands, de pas changer le système, parce qu'en fait, alors, si vous avez choisi un jeu de rôle avec un système où vous pensez qu'en fait, ils vont pas comprendre le système parce qu'il y a trop de choses à calculer et tout, changez de jeu. En fait, prenez un système qu'ils vont être capables de comprendre, en fait, dans lesquels ils ne vont avoir, pas avoir besoin de calculer des choses alors qu'ils ne sont pas rendus à un système de calcul comme ça.
Est-ce que Donjons et Dragons est le meilleur jeu de rôle pour commencer à jouer au jeu de rôle, Flavie?
Ça dépend l'âge des participants et s'ils ont déjà vu en fait, ce type d'addition et de multiplication à l'école, par exemple.
Pas mal, pas mal. Belle réponse.
Donc, moi, j'estime pas qu'il y a un bon jeu pour démarrer quand on est enfant. Ça va dépendre de l'enfant qui est en face de vous, parce que ça va dépendre de ses goûts, en fait. Moi, je sais que, par exemple...
Effectivement, pareil, quand on avait fait, je me souviens qu'on avait fait un sujet par quel meilleur jeu de rôle pour débuter. Ouais. Et là, c'est pareil, on se heurte au même truc. Donc, c'est vraiment...
Et du coup, moi, je sais que quand j'ai démarré, en fait, aussi avec mes enfants, en fait, c'était... Il y avait pas mal tes jeux, mais parce que tes jeux, ils nécessitent quand même... Alors, pas sens, parce que sens, d'un point de vue...
Dans le sens, on ne l'a pas du tout testé.
Non,
avec
d'un point de vue psychologique, ils ne sont pas du tout prêts. Le quatrième mur et tout, moi, j'estime
oui,
que...
Oui, puis est-ce que sens, quelque part, ce n'est pas un dispositif autoritaire?
Oui, puis c'est un dispositif qui va t'amener à questionner l'autorité pour pouvoir t'y confronter. Or, comme je l'ai dit, quand on manque de maturité, ça va être compliqué de questionner l'autorité en face de soi. Donc, je dirais que c'est plus un jeu pour les ados, en fait. Ouais. Au moment où, justement, tu as ce questionnement sur l'autorité et sur comment tu peux la remettre en question et sur quelle est ta place par rapport à ça. Par contre, moi, Trip to Sky, avec les gosses, c'était top. Enfin, Secret of Eons, qui n'est pas encore sorti, mais avec les gosses, c'était top.
Il est sorti sur Patreon.
À ta démarche ludographique, c'est-à-dire que Sens, c'est ton premier jeu, où justement tu questionnais les jeux d'avant pour essayer d'aller vers les jeux futurs.
Tout à fait, exactement. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Mais moi-même, j'étais en crise d'adolescence et en rébellion par rapport aux jeux de rôle classiques. Voilà. Et donc, dans l'idée aussi de sublimer le jeu de rôle classique ou de le discuter.
En fait, tu voyais la potentialité du jeu de rôle, mais tu trouvais ça trop autoritaire. Tu voulais aller vers le directif.
Non, parce qu'il y a quelque chose dans le sens de paternaliste. Et ça, il faut, c'est compliqué, sens, parce que j'étais en désir d'enfant. C'est ce que raconte Sens, en fait. D'ailleurs, c'est un des propos du grand méchant. Et de trouver une succession, un héritier, une descendance, etc. En fait, et donc, du coup, il y avait en même temps une critique de l'autorité, une rébellion, une révolte métaphysique au sens d'Albert Camus, quasiment. Il y avait aussi un côté... Il y a deux dimensions. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une discussion, dans le sens, entre Dieu le Père et son fils rebelle, si j'ose dire. Et donc, du coup, c'est compliqué de situer l'objet. Mais ce qui est sûr, c'est que le dispositif qu'il met en place est autoritaire. Et d'ailleurs, ça n'a pas manqué de faire l'objet de plusieurs critiques. Plusieurs critiques ont vu cette dimension autoritaire de sens et l'ont critiqué. Après, le sens critique sa propre dimension autoritaire. Alors, c'est un peu compliqué, mais est-ce que c'est le meilleur moyen de mettre en place un dispositif autoritaire pour le critiquer ? Flavie, tu vois, Dog Eat Dog, par exemple. Sortons de sens. Parlons de Dog Eat Dog, un jeu que je ne cite quasiment jamais, de Lia Van
Lander. C'est pas du tout un truc qui t'a...
Voilà, pas du tout. Donc, il met en place un dispositif autoritaire où le colon devient le MJ, donc il décrit lui-même que l'idée, en fait, de ce jeu lui est venue avec des parties dysfonctionnelles de Donjons et Dragons, dans lesquelles le MJ décidait de tout, on lui disait ce qu'il fallait faire, quand il ratait, on lui disait comment il ratait, quand il réussissait, on lui disait comment il réussit, et il s'est dit, mais en fait, j'ai l'impression d'être une personne colonisée, et que lui, en face, c'est le colon. Il abuse de son autorité, et donc, du coup, il en a fait une critique de l'autoritarisme à travers ce jeu Dog Eat Dog. Et donc, il a juste situé, en fait, la partie de Donjons et Dragons dans un autre contexte, à savoir un peuple colon face à un peuple colonisé. Et paf, le peuple colon est joué par le MJ qui colonise ses joueurs qui sont les colonisés. Et voilà le dispositif autoritaire que met Liam Leavenworth en place dans Dog Eat Dog et pour justement nous permettre de comprendre quel est l'effet que ça fait en tant que joueur de vivre un dispositif autoritaire pour s'en émanciper, pour le critiquer, pour etc. etc. et en parler. Voilà, ça c'est typiquement par exemple le genre de jeu Anar qui met en place un dispositif autoritaire dans le cadre du jeu de rôle pour le critiquer et en discuter. C'est-à-dire que le cadre du jeu de rôle en lui-même permet de tester les différents styles éducatifs que tu nous as proposés, Flavie. Moi, je connais des jeux de rôle désengagés, je connais des jeux permissifs, etc. Et après, ce serait toute une difficulté de savoir comment est-ce que les règles mettent en place les différents types de trucs. Bon.
Moi, je crois que la première étape, quand on va jouer avec les enfants, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de montée d'angoisse, en fait. Parce que la montée d'angoisse chez les enfants, il va y avoir plusieurs effets. La première, c'est qu'ils vont foutre le bordel pour éviter d'être confrontés à cette angoisse-là. Alors, ils vont se refermer sur eux-mêmes. Et en fait, la première étape, du coup, ça va être de bien faire comprendre ce à quoi on joue.
Voilà, c'est ça. C'est ce
et
que
le
je veux
système
dire.
De règles.
C'est ça.
Et de s'assurer qu'ils ont vraiment envie de jouer à ça.
C'est ça, c'est ça.
C'est la bon. Première chose ouais. à voir avec eux, en fait.
Ouais.
Et à partir de là...
Contrat social, est-ce que tu disais voilà. tout de suite.
À partir de là, quand on va créer les personnages, en fait, quand, souvent, moi, à chaque fois que j'ai joué avec des enfants, en fait, au moment de la création de personnages, des fois, ils se retrouvent un peu bloqués. Parce qu'en fait, ils ne savent pas jusqu'à quel point ils ont le droit d'être libres dans ce milieu-là, en fait. Surtout quand c'est les premières fois qu'ils jouent au jeu de rôle. Mmh. Et donc là, le principe de... Là, on va être là pour guider... pour leur, par exemple, leur proposer plein de solutions possibles, jamais une seule, beaucoup de « Ah bah tu hésites à ça, et pourquoi pas ça, et pourquoi pas ça, et pourquoi pas ça ?» Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que des fois, les gosses, ils vont tout refuser en bloc, mais parce que, et d'ailleurs, c'est même ce que j'espère très souvent quand il se passe ça, parce qu'en fait, ils vont remélanger tout ce que tu as dit pour proposer leur propre chose, en fait. Ouais. Et ça peut être intéressant. L'enfant peut aussi dire « Ah, ça, c'est cool ce que tu racontes », mais il l'utilisera de sa façon à lui. Mmh. Mais il ne faut pas avoir peur, du coup, de faire des propositions, mais il faut en faire plein, au moins une dizaine, en fait.
Un deuxième élément, c'est plein de faire plein de propositions.
Ouais. Pendant la création de personnages, pour qu'il voit, en fait, que c'est florilège, et en même temps, préciser quand on fait les propositions à l'enfant qu'on reste dans le cadre, en fait, de l'univers. Dans lequel on est en train de développer.
Je suis désolé, excuse-moi. Mais tu vois, par exemple, quand on parlait de comment présenter le jeu de rôle à des joueurs débutants ou des joueuses débutantes, on avait la même réflexion.
Mais en fait, globalement, tu sais, alors je vais être très clair, je te spoil la fin du podcast. En fait, c'est pareil qu'avec les joueurs ordinaires, sauf qu'il faut faire gaffe à la maturité de l'enfant parce qu'il y a des trucs sur lesquels il ne va pas pouvoir calculer, etc. Et il y a des trucs sur lesquels il peut être choqué. Donc, il faut faire attention en fait, à la maturité de l'enfant sur ce niveau-là. Sinon, c'est la même chose. Eh ben ouais.
Mais il faut faire attention à la maturité de l'adulte
mais
aussi.
Oui. Mais oui, mais on est d'accord. Mais l'enfant, il va avoir plus de mal à pouvoir exprimer en fait, sa maturité parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Il est en développement.
D'accord, ok. Ok, ok. C'est...
Que l'expérience de l'adulte, tu peux dire, si on va voir des zombies dans l'aventure... Un adulte peut te dire, moi les zombies c'est niet, parce qu'il y a déjà l'expérience des zombies en disant ça sert à rien d'être traumatisant. Alors qu'un enfant qui connaît pas les zombies, c'est quoi un zombie Donc du coup, il faut en parler pour savoir si.
J'ai l'impression aussi que le support cinématographique va. Enfin, parce qu'on a été choqué par des images au cinéma, on va avoir tendance à refuser d'imaginer, de représenter. Parce que le jeu de rôle, c'est un théâtre de représentation. Représentation, c'est-à-dire qu'on présente à nouveau des objets qu'on a déjà vus. Si je te dis imagine une table, tu imagines une table sur la base de toutes les présentations de table que tu as fait. Donc si je te dis imagine des zombies, bah tout de suite tu vas convoquer les films de zombies que tu as vus.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que normalement un enfant de 7 ans, il a pas vu de film de zombies.
Oui, je suis d'accord.
Ou alors
on
il a vu
après.
L'épisode de Scooby-Doo avec des zombies rigolos
voilà.
Et que c'est ce type de choses qu'il va falloir aller chercher en fait.
C'est ce que
il
je
va
dire.
Falloir se renseigner sur ce qu'a vu l'enfant quand on
c'est
parle
ça.
De la maturité aussi.
C'est ce que je voulais dire, c'est que en fait, en fonction de comment les choses lui ont été présentées, la représentation va en hériter aussi. Si, par exemple, les seuls zombies auxquels il a été confronté, c'est les zombies de Secret of Mana ou des zombies magiques, tu vois, il y a des zombies magiques, il y a des zombies type viral, type ceux de 28 jours plus tard.
Et ça, c'est horrible pour eux, par exemple.
Justement, non mais.
Et par exemple, là, tu vois, hier, je regardais avec ma fille Wakfu. Et l'épisode avec Vampiro, où techniquement, il y a des ghouls, tu vois.
Il y a des ghouls et des vampires, ouais.
Mais en fait, ils sont très, très drôles.
Voilà.
Ils risquent jamais rien.
Voilà.
Et donc, du coup, ça roule.
Ça passe.
En plus, je veux dire, elle est en CE2, tout va bien quand on mate ça, tu vois. Mmh. On a respecté le niveau de maturité de l'enfant.
C'est ça. Donc, tu vois...
Donc là, si j'utilise...
Et pourtant, Wakfu a aussi des moments où c'est rude. Mais c'est amené de telle manière aussi où ça passe. Je vais pas spoiler la saison 1, mais
faut pas dire.
Mais la saison 1, elle est pas légère en fait.
Elle est pas légère. Non, non, clairement.
Mais du coup, voilà, il va y avoir quand on va démarrer le jeu de rôle, l'histoire en elle-même, une fois que les personnages sont faits, il va falloir aussi créer, je pense, plus avec des enfants vu que les habiletés sociales sont pas parfaitement établi, il va falloir encore plus qu'avec les adultes créer d'abord en fait une synergie de table. Et du coup, en créant un petit scénar dont ce sera le but, en fait, si vous voulez faire une campagne.
D'accord, ok. Ok, donc faire plein de propositions et créer en fait une première partie un petit peu pour se jauger les uns les autres. En fait, il va pas falloir attendre tout de suite. En fait, c'est la même chose avec des personnes qui débutent avec les jeux de rôle. C'est-à-dire qu'il va pas falloir attendre de gens qui débutent le jeu de rôle, qui soient tout de suite confrontés à des situations hyper intéressantes dans le contenu fictionnel malléable. Il va falloir d'abord qu'ils apprennent à déjà comment on fait des propositions ensemble, comment on les valide tacitement, qu'est-ce que le jeu prévoit pour valider telle ou telle proposition, comment le meneur de jeu, comment qu'on peut réagir, à quoi on a le droit. Je me souviens, là récemment, on a fait jouer à plusieurs jeux de rôle Caroline, qui débute le jeu de rôle, qui est une adulte, et elle a eu des remarques qu'un enfant aurait pu avoir. C'est-à-dire que du coup, on se retrouve confronté à un nouvel objet, le jeu de rôle. Eh bien, on doit, comme un enfant, l'appréhender en jouant avec, en comprenant, j'ai le droit de faire ça, j'ai pas le droit de faire ça. Et si j'aurais le droit, si les crocodiles, ils étaient loin de la pastèque, d'aller chercher la petite pastèque. Voilà, référence à Chris Houghton. Mais tu vois, c'est ça, on teste des choses, on teste des limites. Et donc ça, n'importe quelle personne le fait. Pas de particularité par rapport aux enfants là-dessus, je trouve.
Sur les enfants, si vous voulez, je vous le dis, c'est un truc qui serait très intéressant de mettre en place, de la tension dramatique dans l'histoire que vous allez mettre en place. Par contre, ça ne pourra pas être tout le temps de l'hypertension dramatique. Ouais. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que du coup, c'est des trucs qui mettent mal à l'aise en fait des enfants parce que du coup, les habiletés sociales sont pas complètement claires et vous savez pas tout ce qu'ils vivent chez eux et notamment s'ils sont confrontés à un style directif fort,
autoritaire
fort.
S'ils sont, ça va aller. S'ils sont confrontés à du freinet, ça va.
À du freinet, ouais.
Ils vont bien, ça va bien se passer.
Mais s'ils sont confrontés à de l'autoritaire chez eux, le fait d'être dans qu'il y ait de la tension dramatique, à un moment, il va falloir la désamorcer avec de l'humour ou avec des trucs mignons. Moi, j'aime bien rajouter des petits trucs mignons.
Ouais, tu parles, ils sont horribles, tes trucs mignons. Je connais le Medfly.
Avec les gosses, je fais du Medfly. Avec les gosses, je fais du vrai mignon. Et n'hésitez pas à faire. En plus, c'est des trucs vraiment. Enfin, quand vous amenez de la tension dramatique, n'hésitez pas à faire popper des lapins ou des trucs si vous savez que la personne en face de vous en fait aime ça, parce que en fait, ça va dédramatiser le truc. Il va y avoir en plus une relation qui va s'établir avec les personnages qui vont être attachantes en fait.
C'est ça, le lapin il va être attachant et à la fin de Sens Néant, paf, tu le tues le lapin.
Non.
Bon,
d'accord, okay. Mais pourquoi?
C'est ça. Je vois bien l'idée, je la connais moi, je connais Flavie. Hein.
Et du coup, d'amener plein de petites choses qu'ils vont pouvoir réutiliser en fait. Là, je vous parle de lapin, mais l'idée c'est qu'il y ait plein de petits personnages comme ça auxquels ils vont s'attacher et qui vont peupler leur imaginaire quand ils vont être en train de jouer et qui vont pouvoir aller solliciter quand ils vont jouer. Et vous allez voir que en fait, ça va très bien marcher. Ils vont dire d'accord, écoute, y a mon lapin près de moi et en fait, le lapin va se mettre à faire plein de trucs. Et va même y avoir des dessins de lapins qui vont popper sur la table et qui vont transformer un peu le système de jeu parfois. Enfin, là, je vous donne l'exemple des lapins, mais il y a plein d'autres exemples, des farfadets, etc., les chiens gobelins que j'ai vu popper et faire des choses assez incroyables.
Ouais,
en fait, l'idée, c'est que vous leur donniez en fait des choses qu'ils vont avoir envie d'utiliser comme les grands, mais à leur niveau de maturité, en fait. C'est-à-dire que si vous avez en face de vous un petit garçon dont le rêve, c'est d'avoir un chien, et que vous lui en mettez un dans le jeu de rôle, mais je peux vous jurer qu'il va vous faire des trucs fantastiques avec. Et en fait, d'où le fait que je parle aussi du degré de maturité, et c'est aussi rencontrer et connaître les gens en face de soi, et donc les enfants sont des gens, hein, et donc n'hésitez pas à les rencontrer et à mettre des choses, en fait, et vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup d'humour qui va popper de toutes ces choses-là. Parce que si vous allez, en fait, prendre des choses dans cet imaginaire un peu affectif et affectueux qu'ils ont, en fait, vous rapportez de la chaleur dans la partie. Ce qui fait que vous allez...
La chaleur au sens de la théorie tout à l'heure.
De la chaleur de Baumrein. Et du coup, vous allez pouvoir, à côté de ça, du coup, poser des difficultés en lien avec leur degré de maturité, que vous saurez qu'ils pourront... à laquelle ils pourront répondre, puisque avec vous à la table, mais aussi dans la fiction, il y aura de la chaleur s'il y a un souci. Ils ne seront jamais seuls. N'hésitez pas aussi à mettre en place un adjuvant adulte pour les aider, qui n'est jamais là, qui ne fait jamais rien, mais quand ils ont un problème, genre leur personnage va mourir ou c'est trop horrible, ils pop et ils les aident en fait.
Oh, c'est génial, c'est exactement. Tu es en train de dire tout ce que j'ai fait dans Secret of Eons avec les enfants.
Oui.
C'est un hasard. C'est complètement un hasard, je connais pas du tout ce truc.
Non, non, ça c'est moi qui. C'est quand j'ai lu cette théorie, je me suis dit qu'en fait ça expliquait beaucoup de choses.
Ah.
En fait, parce que l'idée c'est qu'en fait.
C'est un personnage sécurisant en fait, ouais. Au cas où, si ça foire, si tout foire.
Exactement.
Ça leur permet d'avoir un cadre dans lequel ils peuvent s'exprimer, dans lequel ils peuvent faire
dans
des erreurs.
Ils peuvent...
Mais ils savent qu'ils seront rattrapés en
fait. Exactement, c'est le jeu ne t'abandonnera pas, y compris dans la fiction. Parce qu'en fait, on a tendance à considérer que. Et c'est pour ça qu'en fait, les gens souvent ils osent pas et qu'ils rendent tout trop simple, ils ont tendance à considérer qu'il y a juste le système autour de la table qui va jouer. Or, quand on joue avec des enfants, l'histoire est un système.
Oh là 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 là. Moi, c'est incroyable comme la fiction a un impact sur les jeunes enfants. Je trouve plus que sur les adultes. De ce point de vue, il y a une vraie différence. Tu vois, depuis tout à l'heure, j'essaye de te troller sur le fait que ce sont juste des personnes. Mais là-dessus, c'est-à-dire que la représentation, c'est-à-dire que quand tu leur racontes une histoire, ils sont dedans beaucoup plus facilement que des adultes, en fait.
Oui, ouais, tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on va leur raconter. Du coup, mettre ce style directif dans la fiction aussi. Mettre de la chaleur, mettre un cadre dans lequel on va pouvoir questionner adultes, enfants. Les deux vont pouvoir questionner. Mettre tout ça, mais dans la fiction aussi.
Juste, par contre, quand tu disais tout à l'heure, il faut bien connaître les enfants pour bien les mener dans la fiction et bien les guider dans la partie de jeu de rôle, ça c'est exactement ce qu'on disait aussi pour les adultes.
Ah ouais,
aucune différence par rapport à ça. Mais par rapport aux éléments... C'est-à-dire faire attention à la fiction racontée beaucoup plus que... Parce que dans une partie de jeu de rôle, il y a plein de niveaux d'intégration d'implication au sein de la fiction. Il y a des parties, moi j'ai fait des parties de jeu de rôle avec des gens qui passaient leur temps à se marrer. Limite la fiction, on s'en foutait un petit peu. Je me souviens quand on avait fait le jeu de rôle avec les vieux là, comment ça s'appelait,
les trucs d'EHPAD. Bah,
ouais, tu vois. Franchement,
j'ai perdu le nom, mais
ouais, tu vois, la fiction, on s'en foutait complètement. Ouais. On passait un bon moment tous ensemble autour de la table, par exemple. Tu vois, ce genre de partie, je suis pas sûr que les enfants ça.
Non, ça va leur passer au-dessus parce que c'est pas ce qu'ils recherchent. Mmh. Parce que ce qu'ils recherchent, en fait, c'est une explication du monde qu'ils recherchent, en fait. Mmh. Ils cherchent à découvrir qui ils sont dans un monde dont ils cherchent aussi la signification.
D'accord.
C'est ce qu'ils font dans les jeux de récré aussi. En fait, ils font déjà du jeu de rôle entre eux, quelque part.
Mais oui.
Ouais.
C'est juste que là, on le fait par l'intermédiaire de maintenant que tu es capable justement de bien te projeter dans ta tête une histoire, tu vas pouvoir la vivre autour d'une table et tu vas pouvoir faire des jeux que tu n'as peut-être pas vu encore ou que tu n'as pas essayé de faire. Et allons-y, banco quoi.
Ça m'ouvre une autre boîte, je suis désolé que je voudrais ouvrir et refermer très vite, mais c'est que pour moi, c'est important en tant qu'adulte de montrer à mes enfants que je continue à jouer. Que en fait c'est pas que le jeu c'est pas le propre de l'enfant, mais qu'on peut jouer à tout âge, que c'est important de jouer parce que on joue et en fait jouer c'est aussi prendre le risque de faire des erreurs. Quand on joue avec une balle, on prend le risque de la faire tomber. De la même manière quand on, tu vois, jouer pour moi c'est toujours se mettre en danger quelque part dans la mesure où on teste. Jouer c'est tester, voilà, c'est ça. Et tester c'est ça
jouer,
peut vouloir dire
ça. Pour moi, mais...
Jouer c'est
tu vois, jouer de la musique, jouer au théâtre, jouer au foot.
Oui, je suis d'accord.
Toutes ces expressions-là, c'est du jeu. D'une certaine manière, on a pris des fois une dimension très sérieuse parce que derrière, il y a de l'argent, du bifton, des choses comme ça. Mais effectivement, l'être humain ne s'arrête pas de jouer.
Exactement. Et donc, jouer, c'est apprendre. Et donc, apprendre, c'est aussi prendre le risque de se tromper. Et donc, de voir les adultes continuer à jouer, continuer à se planter, continuer à lancer des dés, à rater des actions et à rigoler quand ils ratent, je trouve que c'est très important. Pour ça a une vertu éducative en soi, en fait, je trouve.
Ouais. Et moi, un truc que j'ai remarqué aussi dans le fait de jouer avec les enfants, c'est que quand on va démarrer, en fait, la partie... Et ce qui fait dire aux gens d'ailleurs que c'est... J'ai entendu des gens déjà dire que c'était pas très intéressant de jouer avec des enfants, mais parce que vous n'avez pas été assez loin avec eux et que vous n'avez pas fait durer le truc. C'est au début, en fait, comme les enfants n'osent pas se mettre à nu et être confrontés à des situations de discussion, etc. En fait, ils vont tendance à aller chercher en fait l'aspect bagarre du système. Parce qu'il se passe quelque chose et qu'ils vont pouvoir en fait savoir exactement ce qu'ils vont pouvoir faire dedans. Ah bah là, je lui mets un coup de poing, etc.
Alors ça, c'est déjà des enfants d'un certain âge.
Ouais, moi j'ai beaucoup joué avec des petits ados. à partir de voilà, 10 ans.
Parce que ouais. les petits-enfants, parce que pour moi, pour avoir joué avec des enfants vraiment très petits, je peux te dire que c'est totalement l'inverse.
C'est l'inverse.
Ouais, okay. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir rester le plus longtemps possible dans la conversation.
Ah bah dans ces cas-là, je fais d'abord le point ado et on fait la différence
d'accord,
avec les jeunes
okay,
enfants.
Parce que c'est
donc
différent.
C'est ce qui explique du coup, parce que les ados ont beaucoup de mal à se mettre à nu aussi. Et du coup, en fait, ils vont avoir tendance à vouloir chercher la bagarre. Et par contre, si au fur et à mesure, vous rajoutez entre les scènes de bagarre des scènes de discussion et de mise à nu qui durent de plus en plus longtemps, en fait, mais qui au début sont assez petites.
Ça, tu parles des ados. Hein.
Des ados, ouais. Et ben, vous allez avoir, en fait, un truc qui va s'équilibrer au fur et à mesure parce qu'en fait, c'est juste qu'au début, il ne vous faut pas confiance, en fait, parce qu'ils ne savent pas à quoi ils jouent et qu'ils ne savent pas ce qu'on va leur demander, en fait. Donc, ils testent le cadre à leur façon et c'est à vous, en fait, d'aller leur montrer comment vous allez doucement, par la fiction, les amener dans autre chose.
Alors ça, c'est parfaitement vrai. Il y a un autre élément qui va dans ce sens-là, c'est aussi la culture du jeu de société.
Ouais.
Le jeu de société, c'est très souvent, on sort un plateau, on sort du matériel, et en fait, le jeu, c'est on joue sur le plateau, sur le matériel. Ce qui fait que quand tu fais une partie de jeu de rôle, je pense que tu as beaucoup de Secret of Heroes en tête quand tu dis tout ça. Et en fait, quand dans Secret
of Heroes... Pas seulement, mais il y a l'œil noir et tout ça.
Je sais bien, mais l'œil noir, le dispositif, il est très proche de Secret of Heroes. Donc en fait, le truc, c'est que du coup, on sort un jeu de plateau, on sort un jeu de société, donc on regarde d'abord les figurines, on regarde d'abord le plateau, on compte les cases, parce qu'on a cette habitude vis-à-vis du jeu. Et en fait, il y a une vraie culture, une acclimatation à l'idée que la fiction va avoir un impact sur les mécaniques de jeu. En fait, les ados apprennent progressivement qu'en fait, mais si je dis que j'ai des bottes, si je dis qu'il y a de l'eau là, ça va arrêter les pions. Et oui, il n'y a pas que la mécanique, il y a aussi une dimension fictionnelle qui entre en jeu. C'est ce que Frédéric Sintès appelle le positionnement. C'est-à-dire que dans le jeu de rôle, le positionnement n'est pas uniquement mécanique, ce n'est pas que le matériel qui fixe. La fiction a un impact sur les coups possibles pendant la partie. Je j'ouvre juste une parenthèse sur le positionnement, là, puisqu'on est en train d'en parler. Il y a un excellent podcast avec Valentin Touzeau et Angel Dos JDR pour l'occasion de la sortie des cordes sensibles de Frédéric Sintès sur le concept de positionnement chez Frédéric Sintès. Si vous ne connaissez pas cette théorie, si vous n'avez jamais entendu parler de cette théorie, foncez sur le live de Angel Dust JDR avec Valentin Touzeau sur le positionnement de Frédéric Sintès. C'est super intéressant.
Et en fait, je me rends compte que j'ai joué aussi avec des jeunes enfants et que ce que tu dis est vrai.
Oui.
C'est-à-dire que ils vont faire l'inverse.
Ils vont faire complètement l'inverse.
En fait, je me rends compte de mes parties. En fait, là, j'ai joué récemment beaucoup, beaucoup avec des ados, et beaucoup moins avec des jeunes enfants. Mais oui, ils vont d'abord avoir tendance à se mettre à nu, à aller chercher en fait la relation, une relation même un peu doudou avec les gens.
Mais c'est complètement vrai. Alors, juste pour info, donc avec Pandore, à l'époque où elle avait entre 7
entre 4 et 7 ans.
6 et 7 ans, je dirais. Elle a maîtrisé Secret of Heroes. Donc nous, avec Soren, on a joué une campagne de Secret of Heroes maîtrisée par Pandore. Et il y avait zéro combat. C'est-à-dire qu'on rencontrait des méchants, il y avait le petit frisson pendant l'exploration, et en fait, on découvrait que les méchants, ils faisaient de la cuisine, ils mangeaient du chocolat, et qu'en fait, du coup, les méchants, à la fin, ça finissait qu'on avait sur le plateau de jeu, c'est vrai, 20 dés, donc des personnages qui nous suivaient. Comme des Pokémon, c'est-à-dire que chaque fois qu'on rencontrait quelqu'un, Pandore ne le lâchait plus, c'est-à-dire que le PNJ nous suivait. Donc on a fini, on a commencé, on était à deux avec Soren, on explore une grotte, on ressort de la grotte, on est 30, parce qu'on a 20 gobelins qui nous suivent avec des tablettes de chocolat, on a deux nounours qui sont en train de discuter de ceci, cela, on a un petit dinosaure que je sais plus quoi, enfin, en gros, tu vois ce que je veux dire ? Donc là, pourquoi ? Parce qu'à aucun moment, Pandore n'a voulu résoudre ses combats, c'est-à-dire qu'elle nous préparait, elle faisait des simulacres de « il va y avoir une grosse baston, là, Soren, faut qu'on se prépare, faut que machin ». Et en fait, au dernier moment, elle voulait surtout pas que ces personnages... Alors que pourtant, Secret of Heroes prévoit qu'après les bagarres, il n'y ait aucun mort. Hein. Donc il n'y a pas de destruction de personnages dans Secret of Heroes. Au pire, ils sont assommés, au pire, ils fuient, etc. Et ben même malgré ça, elle voulait pas rentrer dans le système de résolution parce qu'ils disaient « oh, ça va être compliqué, on va y passer des heures ». Elle, ce qui l'intéressait, c'était de savoir comment on allait devenir le copain du cuistot gobelin qui utilisait des tablettes de chocolat pour manger ses escargots. Ça, c'était beaucoup plus important. Et donc, il y avait un vrai côté, on se retrouvait dans la maison de poupée de Pandore, si tu veux, à cette époque-là. Et donc, du coup, là, pour le coup, il n'y avait pas de bagarre, pas de système. C'était assez génial, en fait, de se retrouver dans une maison de poupée. Ça, c'est marrant.
Ça me fait penser...
Vas-y.
Je me demande si c'est pas en lien avec le travail d'Henri Vallon, qui a découpé le développement de l'enfant en vraiment deux parties, où il y a des phases où l'enfant est centripède et ensuite centrifuge, c'est-à-dire que des fois l'enfant est plus centré sur lui-même et des fois l'enfant est plus centré sur les autres.
Ouais.
Je me demande si c'est pas en lien avec ça.
Eh ben, alors effectivement, maintenant que tu le dis, quand elle posait les dés, elle nous regardait énormément et elle regardait nos attentions. Quand elle commençait à jouer les personnages, on avait l'impression qu'elle était un peu dans sa tête, un peu dans son monde. Donc il y a vraiment ces deux idées de, elle va vers les autres, puis ensuite, et à un moment donné, on se demandait même si elle n'était pas en train de jouer toute seule. Parfois, elle disait rien. Et on avait la sensation qu'elle se faisait des propositions à elle-même, mais qu'elle ne verbalisait pas, qu'on n'entendait pas.
Alors il y a plusieurs choses que je vais pouvoir lesquelles je vais pouvoir vous aiguiller du coup sur. Déjà en fait, la découverte du jeu de rôle sur les jeunes enfants, c'est un truc de ouf pour eux parce que c'est la découverte du discours performatif. Ce qu'ils disent est effectivement réel.
Oui, c'est vrai que c'est dangereux ça aussi peut-être.
Non, pas du tout, parce que du coup en fait c'est dans un cadre fictionnel, donc ils voient bien que c'est pas réel.
D'accord.
Mais il y a un côté où la parole va être ouf, tu vois, parce que d'un coup ce qu'ils vont dire va pouvoir être vrai, même si tu vois la différence, ils font la différence.
D'accord.
Mais du coup c'est
dans le faire semblant quoi.
Voilà, et du coup pour eux c'est quelque chose qui est vraiment qui leur fait beaucoup de bien dans la tête en fait. Donc,
mais t'imagines ce que ça doit leur faire de se dire les adultes le croient. Parce que moi pendant des années j'ai joué tout seul et en fait quand je disais des trucs aux adultes ils en avaient rien à foutre. Là quand elle me décrit le doudou, je dois faire comme s'il existait, tu vois. C'est-à-dire que
Et puis mettre en place un dispositif où c'est l'enfant qui masterise, c'est quand même drôlement bien parce que c'est l'enfant qui va pouvoir en fait, pour une fois, être l'éducateur et du coup se rendre compte que s'il est trop, directif,
autoritaire,
autoritaire, ça va pas marcher. S'il est trop permissif, ça va pas marcher. Et donc c'est un super système pour découvrir en fait l'intérêt du système directif.
C'est du renversement là, tu vois, comme tu dis, la classe inversée.
Exact. On a fait du. C'est pas tout à fait la classe inversée. Mais on est vraiment dans du Freinet, tu vois, où l'enfant va pouvoir. Avoir un espace sur lequel il va pouvoir déterminer en fait comment ça se passe dans les espaces, avec à la fin de la semaine on fait le point sur qu'est-ce qui va ou pas dans ce qu'on a mis en place, etc. Bref, mais et moi en fait j'ai autre chose à...
j'ai voulu faire le malin en sortant un terme technique, Jérémy, je me suis fait corriger c'est un peu autoritaire,
mais
je suis pas très bien, Jérémy.
Non, puisque on est dans un style
cellule devant tout le monde.
Passé pour un Asbrock devant Dana Summer, pour ceux qu'on en rêve. Moi, ça me fait aussi beaucoup penser à la théorie de l'attachement. C'est pas ce que vous en connaissez.
Ah non, vas-y, raconte. Enfin, j'ai dû entendre.
En gros, c'est selon la relation que l'enfant il a à l'adulte, en fait, il va avoir des façons de s'attacher en fait à l'adulte et d'avoir une relation plus ou moins sécurisante avec l'adulte. L'enfant qui se sent bien avec l'adulte, il a une relation dite sécure.
Ah oui, d'accord, ok.
Mais il y a des types plus compliqués d'attachement, notamment pour des enfants qui ont été élevés dans des trucs un peu compliqués, notamment l'ambivalent, l'évitant ou le désorganisé.
Alors,
l'ambivalent... en gros, alors je vais utiliser mes termes à moi, d'accord.
Et puis là, j'avoue, je connais pour l'avoir étudié, mais j'avoue, je ne sais plus les termes précisément à quoi ça renvoie.
Alors l'ambivalent, en gros, c'est l'enfant qui au début va être adorable, puis il va tester le cadre d'une façon régulière et très forte pour savoir si, même quand il fait des conneries, tu restes avec lui quoi qu'il arrive.
Ah d'accord. Okay.
L'évitant,
tester la solidité de ta relation avec
limites,
toi.
Ouais.
L'évitant, tout est dans le titre en fait, il a pas confiance à l'adulte, il sait que l'adulte le lâchera et en fait, il est mieux sans l'adulte, donc en fait, il va s'arranger pour ne pas être en contact avec l'adulte, et si l'adulte essaye d'être genre un adulte un peu care, un peu sympa avec lui, en fait, ça va le mettre mal à l'aise, l'insécure évitant.
D'accord.
Donc en fait, vous allez lui faire du mal en faisant ça alors que vous voulez lui faire du bien. Donc en fait, ce qui est horrible à dire, mais pour les insécures évitants, la meilleure posture d'un adulte, en fait...
C'est le mépris.
Alors, pas tout à fait le mépris, mais faut être cette autorité lointaine et inaccessible.
Ouais, faut être disponible.
Disponible, oui, mais loin.
C'est pas mal.
Là, moi, j'aime bien l'idée de cette autorité inaccessible, mais que si tu l'appelles, elle sera là quand même.
J'ai l'impression que tu connais ça à la maison, Jérémy, comme ça d'un coup là, non ?
Non, ça, ah, okay, ça fait partie des trucs que j'ai étudiés, que ça me rappelle des trucs, si bien.
Et le désorganisé, bah, c'est un mélange des deux, donc c'est les plus compliqués. Hein. C'est à la fois il veut tester le cadre, à la fois il veut que tu sois là, et à la fois il faut que tu dégages. Ah bah, donc c'est facile. Pas facile. Et en fait, quand on va être dans un jeu de rôle, l'idée, c'est d'amener l'enfant, en fait, vers un attachement sécure des personnages qu'il va rencontrer et de comprendre, de lui faire des personnages corrects qu'il va rencontrer et donc d'être assez clair sur quand un personnage va être un méchant pour éviter qu'il s'attache à un méchant et qu'ensuite il se fasse rembrouer par le méchant ou alors que ce méchant soit assez lointain et voilà qu'en fait ce soit pas gênant et que si il se soit malgré tout attaché au méchant, qu'il y ait toujours le backup du gentil pour te protéger. L'idée, c'est que vraiment, l'enfant, il soit sécure dans ce que vous allez lui proposer dans la fiction. Parce que lui, l'enfant, il n'a pas fini son développement. Et que du coup, en fait, ce qu'il va vivre dans cette petite enfance va avoir beaucoup d'influence sur ce qu'il va vivre après, quand
moi
il sera
non plus,
adulte.
Moi j'ai pas fini mon développement.
Oui, mais tu sais, globalement, tu sais beaucoup plus qu'un enfant de 7 ans qui tu es. Ouais, et tu as mis en place des dispositifs de protection, sauf que l'enfant ne les a pas encore mis en place.
Ouais, d'accord, ouais,
est-ce qu'un enfant insécure peut avoir accès au jeu de rôle, justement ?
Ben moi, je pense qu'au contraire, ça peut être intéressant comme thérapie ou comme mise en place de... Parce qu'en fait, on n'est pas insécure toute sa vie. C'est pas un truc... Une fois que t'es sécure, t'es sécure. Une fois que t'es insécure, t'es insécure. D'ailleurs, il y a des articles qui sont sortis sur des gens à l'EHPAD qui étaient sécures et qui arrivent à l'EHPAD dans les EHPAD un peu maltraitants et qui deviennent insécures, évitants ou ambivalents. Donc, l'idée, en fait, au contraire, c'est que ça peut être un moyen, par un moyen détourné, un peu plus lointain d'eux. Alors, ça dépend s'il y a... On va être très clair, s'il y a une psychose ou des trucs comme ça, vous m'évitez ça.
Ouais, ça, c'est autre chose encore.
Mais moi, je pense qu'au contraire, c'est une façon pour eux d'extérioriser des choses.
C'est
et
comment
de
amener
voir...
le jeu de telle manière, justement, que ça pourrait atteindre des objectifs... Bah, par exemple, est-ce qu'on met plusieurs personnes insécures ensemble ou au contraire, on le prend seul pour travailler la relation adulte ou soignant?
Je pense que là, on est... plus loin du podcast, sur un podcast sur lequel il nous faudrait une psy que je connais d'ailleurs, mais où justement, en fait...
Pour info, il y a un magazine Santé Mentale de décembre 2025 qui a fait tout un dossier complet sur le jeu de rôle comme outil de soin. Ouais. Donc c'est
pour ça, moi, je pense que c'est un podcast à part entière.
Ouais.
Parce que je pense qu'on peut partir très très loin. Moi, je pense que c'est un très bon média. Bah, d'ailleurs, s'il y a un truc qui est sorti. Mais par contre, quand tu vas dans ta vie de tous les jours avec des gosses, oui, tu peux peut-être être confronté à un ambivalent ou à un évitant, mais en fait, ils seront pas dans un système de soins. C'est-à-dire que t'es dans ta vie de tous les jours. Si tu travailles là-dedans dans un système de soins, c'est qu'il y a d'autres choses et qui les a amenés à être ça.
C'est ça.
Mais en fait, quand tu vas être...
On n'est pas des apprentis sorciers, on n'est pas des apprentis médecins, on n'est pas des apprentis psychologues. Je veux dire, il ne faut pas jouer au psy quand on fait du jeu de rôle.
Là, moi, je parle juste de quand vous êtes avec votre neveu ou les enfants d'une amie et que vous allez... Ou alors dans le cadre d'une convention et que vous allez masteriser, en fait.
Voilà. On n'est pas dans le cadre du jeu de rôle comme objet de soins psychologiques, on est vraiment dans le cadre du jeu de rôle divertissement, éventuellement un jeu de rôle média, au sens où on peut défendre les propos des auteurs et tout ça.
C'est
pas un outil dans ce cadre-là, le jeu de rôle.
Le but de la fiction que vous allez proposer à l'enfant, c'est pas de le déstabiliser, en fait. C'est de lui proposer toujours un cadre sécure.
Oui, très très bien. Et y compris fictionnel. Moi, ce qui est intéressant dans ton développement, c'est aussi de voir tout l'impact de la fiction sur. Parce qu'on pourrait croire que c'est presque pas important. Et en fait, si, ça l'est. Mais pas là où on pense. C'est-à-dire que souvent, quand on dit la fiction est importante, c'est dans les images qu'elle représente. Et en fait, c'est pas là-dedans que c'est important. C'est dans les relations entre les entités fictionnelles.
Et c'est pour ça que c'est dommage si vous masterisez et que vous enlevez les problèmes, en fait, à résoudre. Ou que vous les résolviez à la place de l'enfant. Parce que l'enfant, il a une boîte à outils gigantesque de résolution de problèmes dans sa tête. Et en fait, c'est dommage que vous ne lui permettiez pas de l'utiliser avec le cadre que représente l'espace de jeu de rôle, en fait. Ouais. Parce que c'est comme quand on enseigne l'art, en fait.
Attention à ton micro, tu es en train de hurler dans ton micro, vas-y.
C'est comme quand on enseigne l'art.
Alors, si tu veux crier, crie, mais éloigne-le un tout petit peu.
C'est comme quand on enseigne l'art, en fait. Ça va être intéressant de donner une... une règle oui. à respecter parce que ça va développer la création, mais là c'est pareil en fait. Donc arrêtez de prendre les enfants pour des crétins et jouez avec eux et amarrez-vous avec eux et créez des choses avec eux, mais en faisant gaffe à eux. Mais ouais. Faire gaffe à quelqu'un, ça ne veut pas dire l'empêcher de vivre des trucs. On n'est pas sur une objectivation. Ce sont des enfants, mais ce sont surtout des sujets, des subjectivités qui rencontrent la vôtre.
C'est très intéressant. Est-ce que tu as des questions à ce stade, Jérémy ? On va devoir arrêter parce que on a un rendez-vous.
J'ai l'impression, si je fais un résumé, par exemple, si je propose à un enfant le cadre au départ qui est vous êtes des héros, vous allez être face à des situations problèmes. Oh, c'est pas le terme que j'utiliserais, mais vous êtes face à des problématiques, à des dangers, quoi que ce soit, et vous allez les résoudre ensemble. Parce que ça résume en fait ce qu'il faudrait faire avec des enfants.
Ouais, et puis ensuite tu leur parles du jeu et de comment ça va être fait
en
dans ce jeu-là.
En termes de thème et tout, ok. Ouais, okay.
En faisant gaffe dans la fiction, en mettant des petits points sur lesquels ils pourront se rattacher. Tu vois, par exemple, le personnage qui peut popper pour t'aider.
Donc moi, ça me rassure, de dire que je n'ai pas trop merdé dans mes ateliers, en fait.
Donc tu rappelles, tu as donné comme conseil, consigne, enfin comme idée de bien comprendre la notion de contrat social et de bien la poser, de faire beaucoup, beaucoup de propositions, qui ne soient pas, en fait, de ne pas être autoritaire dans ses propositions, mais de laisser l'enfant en fait avec une espèce de boîte à outils, faire très attention à la fiction au sens où pour l'enfant elle est très impactante, très importante. Et dans les éléments de fiction, tu as proposé aussi d'ajouter un espèce de mentorat ou un personnage un petit peu sécure pour les enfants. Ne pas considérer les enfants comme des objets de soins, mais aussi les considérer comme des sujets de vie, c'est-à-dire des personnes à part entière. Tu as bien insisté sur le fait de prendre en considération leur maturité et donc de ne pas exposer les enfants évidemment à des choses pour lesquelles ils ne seraient pas prêts. J'ajoute aussi qu'il ne faut pas... Moi j'ai envie de dire... Moi, mon propos dans ce podcast, ce serait de dire que je ne fais aucune différence, à part effectivement les éléments qu'on a vus ensemble sur la maturité et tout, mais j'ai tendance à vouloir éviter au maximum de faire vraiment des différences entre les enfants et les personnes. En fait, pour moi, les enfants sont juste des personnes dont on a conscience de la fragilité, mais dans le fond, ce sont des personnes. Donc ça, c'est un élément très important pour moi. Et puis, j'ajoute que les questions des représentations sont très importantes aussi quand on joue avec des enfants. Tu dis bien les connaître pour bien mener la partie, bien les connaître pour comprendre quelle est la nature des représentations, comment ils se présentent les choses. Et puis, effectivement, s'ils ont vu des scènes choquantes par rapport à des zombies, pas mobiliser des zombies parce que la représentation sera trop violente. Mais si inversement, les seuls zombies qu'ils ont vus, ce sont des zombies mignons et tout ça, tu peux tout à fait faire un déferlement de zombies dans une ville et ça va les faire marrer. Tu vois, je prends par exemple l'exemple d'Avatar. Il y a un épisode entier où les gens sont atteints par la poulpatose dans la truc de la Terre. Et donc, c'est vraiment une espèce de simulation de truc de zombies, sauf que c'est rigolo parce qu'on sait qu'un, ils sont pas vraiment infectés. Ils font semblant pour se libérer, que les poulpes, en fait, ils sont trop mignons, les poulpes qui les ont. Donc, voilà. Donc, il y a un truc zombie, mais si tu fais une invasion zombie de ce type-là et que la seule représentation que l'enfant a des zombies, c'est celle d'Avatar dans cet épisode-là, ça va le faire même marrer. Donc, le problème de la représentation n'est pas si importante que ça. Ce qui compte, c'est de comprendre quel type de représentation l'enfant mobilise. Donc là, pour ça, il faut bien le connaître, pour savoir bien s'adapter. Est-ce que j'ai bien résumé ?
Ouais, j'ai un dernier truc à dire, parce que j'ai toujours un dernier truc à dire. Je voudrais parler des violences éducatives ordinaires, parce qu'on pense toujours aux violences physiques, mais il y a les violences psychologiques et les violences verbales. Et moi, j'ai vu en jeu de rôle beaucoup de violences éducatives ordinaires, telles que la culpabilisation, le chantage, les menaces... les menaces d'abandon, les cris, les insultes, les moqueries, les humiliations. Dans le jeu de rôle, dans la fiction, ces violences éducatives ordinaires auront beaucoup d'impact si vous faites ça dans la fiction. Donc, ne les faites pas. Ou si vous devez le mettre en place, dites avant, attention, le méchant, c'est un vrai méchant. Là, il va être méchant, mais tu vas pouvoir te défendre. Ou toujours rappeler, t'inquiète, tel personnage va te défendre.
Oui, ou alors, justement, c'est l'occasion de parler des violences éducatives ordinaires.
Oui, et dans ces cas-là, on en parle avant,
si tu vois,
comme Harry Potter.
Si tu mobilises
quoi.
Le méchant, voilà, c'est ça. Si tu mobilises le méchant et tu tues quelqu'un, tu dis tu vois, en tant que MJ, tu prends du recul. Tu prends pas du plaisir à tuer quelqu'un. Tu vois, tu dis, le méchant prend plaisir, mais toi, en tant que MJ, tu regardes l'enfant et tu fais, oh là là, il est pas gentil. Ouais. Tu vois, tu comprends qu'il y a du recul par rapport à
et
ça.
Et puis, c'est important aussi de je dis pas qu'il faut pas le faire, comme je le dis, c'est avec toujours un backup qui va leur permettre de se mettre en sécurité dans la fiction.
Ouais, tout à fait. Les violences éducatives ordinaires, on en voit aussi autour des tables, hein, pas que dans la fiction. Hein.
Ouais. Il y aurait tout un truc à faire, un podcast là-dessus, parce que j'ai plein de trucs à dire là-dessus. Mais ce ne sera pas,
ça sera pas aujourd'hui, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, encore une fois. Jérémy, tu avais dernière question ?
Non, c'est bon pour moi.
Ouais. Est-ce que toi, tu as rencontré des problèmes quand tu as joué avec des... Est-ce que...
Non, parce qu'encore une fois, c'est des scénettes très petits, et puis je pense que j'ai bien mis le contrat social, enfin j'espère. Mais en tout cas, les retours des enfants étaient plutôt positifs, dans le sens qu'ils avaient vécu l'histoire. Et moi, j'aime bien justement que ce soit les enfants qui trouvent... En fait, je vois plus des situations problèmes. Et s'ils me proposent une solution, je la valide quasiment parce qu'ils ont trouvé une solution. Ouais. Et je les pousse aussi des fois à dire « Tu peux aider ton camarade si tu veux. » Pour dire « Ah ok, je peux. » Comme ça, du coup, ils peuvent aussi intervenir. Et du coup, ça leur donne plus de puissance. Disons, ensemble, on est plus fort face à une situation. Ouais. Donc, c'est plus ma méthode de travail sur des scènes que je fais. Au sein des
c'est très bon. Ouais. Moi, le seul truc, c'est que je ressens ce truc avec les enfants quand même d'intensité de la fiction qui est un petit peu moins forte. C'est-à-dire qu'en tant qu'adulte, j'aimerais qu'on rentre dans des choses peut-être un peu plus dramatiques, parce que moi, c'est ce que je viens chercher. Et malheureusement, avec les enfants, tu peux pas tout de suite rentrer là-dedans.
Mais
c'est
eux,
normal.
Souvent, c'est déjà énorme.
Oui, tout à fait. Non, mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire que c'est comme si je disais, c'est dommage quand on joue avec les enfants, je peux pas vivre ma meilleure finale de Coupe de France de Legacy. Bah non, parce que forcément, tu vois. Quand tu fais une partie Magic avec un débutant à Magic, tu vas pas vivre des émotions comme tu ressens en Coupe de France, en finale, en Legacy. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça le truc. C'est que, mais comme moi je pratique le jeu de rôle et j'aime pratiquer le jeu de rôle depuis très longtemps et que j'ai envie de vivre des parties intenses, ça peut être parfois frustrant d'avoir des enfants, mais de la même manière que ça peut être parfois frustrant de jouer avec un débutant alors qu'on a envie de faire une partie avec un professionnel.
Maintenant, j'ai eu des fous rires avec des gosses en jeu de rôle.
Oui.
Assez incroyable, parce que en fait, une fois qu'ils sont... Mais c'est pareil dans la relation générale avec eux. Hein. Pareil en classe, même tu vois, là, je ne bosse plus en ordinaire et j'ai des fous rires de fou avec mes élèves. C'est une fois, en fait, qu'ils sont sécures, tu vas pouvoir... Et que le contrat social est bien compris des deux côtés, on va pouvoir se marier. En fait.
Et là, il faut dire un truc aussi, c'est qu'on peut apprendre énormément de choses des enfants, et notamment en tant que game designer, parce que du coup, on a affaire à des gens qui n'ont jamais vu un dispositif de jeu de rôle et qui peuvent le questionner et qui peuvent t'inviter à avoir des remarques que tu n'as jamais eues par rapport à un système de jeu ou des règles. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant aussi de faire jouer les enfants quand vous êtes game designer, parce que ça vous permet d'interroger aussi les limites des dispositifs que vous mettez en place. Parce que jouer avec des adultes, en fait, entre guillemets, c'est facile, en fait.
Oui, et puis eux, ils vont réussir à se dire, bon, je vais compenser. L'enfant, il compensera pas. Hein, si ton système, il est pas bien fait, l'enfant, il va dire, c'est nul, et puis il va lâcher. Hein.
Et par ailleurs, quand le dispositif est bien fait et que l'enfant peut peut s'exprimer clairement, alors là, vous allez voir des trucs que vous avez jamais vus. Moi, j'ai vu des propositions de jeux de rôle. J'avais fait jouer Cthulhu à des enfants une fois. Et donc, toujours pareil, tu vois, comme quoi le cadre des représentations peut être intéressant. Hein, du Cthulhu, et ben ça passe. Parce qu'en fait, les représentations qu'ils ont, c'est Martin Mystère à l'époque. C'était en fait des fictions type Scooby-Doo, des fictions des films un petit peu, tu vois.
Oui, je me doute que c'est pas la Vierge qui va être sacrifiée.
Et donc, du coup, tu vois, par exemple, j'avais un photographe. Donc, qui avait un appareil photo sur lui. Il est confronté à un loup-garou dans une forêt. Eh ben, il a juste son appareil photo, pas d'arme, rien du tout. Et ben, il dit putain, j'ai une idée. Je prends une photo avec le flash à fond et je l'éblouis. Tu vois. Je me dis, est-ce qu'un adulte aurait pensé à ça ? J'en suis pas certain. Franchement, l'idée était géniale, tu vois. Là, tu récompenses le joueur.
Bah, carrément, c'est ça. Tu mets face à une situation problème, il y a une proposition. Ouais. Elle peut être autonome, tu dis, mais ouais, mais ça
va. Les enfants, ils ont des idées de génie parfois. Donc, ne pas sous-estimer l'intelligence des enfants, parce que vraiment, parfois, ils sont surprenants et ils pensent à des trucs que les adultes...
Ils s'autorisent même que... Les adultes, je crois que ne s'autorisent pas toujours, parce qu'on veut aussi rentrer un peu dans un cadre, dans un moule. Et donc, on essaie de trouver peut-être des réponses plus conventionnelles, plus conformistes, là où l'enfant va vraiment exprimer son idée.
Voilà, exactement. Donc moi, en fait, pour revenir, donc moi, c'est le premier problème, c'est l'intensité des parties, mais là, encore une fois, on y a répondu. Et puis, l'autre problème que j'ai eu avec les enfants, c'est un désintérêt. La difficulté à les intéresser. Hein, le jeu de rôle, t'as des enfants qui sont tellement...
Et puis, ils ont un temps de
concentration,
de concentration qui est à prendre en compte aussi.
Absolument.
En fait.
Absolument.
Faites régulièrement. Alors déjà, je dis que pour les adultes, il faut faire régulièrement des pauses. Alors avec les gosses, il va falloir en faire. Hein. Parce qu'en fait, ils vont en avoir besoin. Important. Tous les 20 minutes, vous me faites au moins 10 minutes de pause, en
Mais
fait,
tu
si
vois,
vous voulez que ça tienne.
Les outils de sécurité émotionnelle, la pause, c'est un outil de sécurité émotionnelle. Ils peuvent beaucoup vous servir, peuvent beaucoup vous aider à organiser des parties avec des enfants.
Et même si l'enfant dit « Non, j'en ai pas besoin !» On va faire quand même une petite pause. Je sais que t'en as pas besoin, mais moi j'en ai besoin.
Ah oui.
Mais ça peut durer pas longtemps, mais juste pour que. Allez, retrouve ta concentration, va faire un petit temps, voilà.
Excellent, ouais, tout à fait. Donc voilà, il y a aussi ça, c'est la difficulté à parfois les intéresser. Pour tout un tas de raisons, soit parce qu'ils ne comprennent pas l'activité, bon, mais j'ai envie de dire que c'est pareil, il y a des personnes qui ne comprennent pas pourquoi on joue à faire du jeu de rôle, hein, j'en connais plein. Soit parce qu'il n'y a pas assez de matière, il n'y a pas assez de trucs concrets.
Soit parce qu'on est trop loin aussi de leur représentation et de ce qu'ils connaissent, en fait. Des fois, on leur propose des trucs. En fait, nous, ça nous fait kiffer en tant qu'adultes, mais bah, peut-être qu'ils n'ont pas le même socle de représentation que vous, en fait, et le même socle commun, qu'on pourrait dire. Interrogez-vous, encore une fois, sur ce qu'ils ont vu ou pas, sur ce qui les fait kiffer ou pas.
Ouais.
Certains sont à fantaisie. Hein.
Oui, c'est ça vrai. Se trouve, ouais. Alors, un dernier élément que je voulais aborder avec toi, Flavie, c'était le cas de l'enfant qui est noyé sous la parole de l'adulte.
Ah.
Ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé dans les parties de jeux de rôle. J'ai l'expérience notamment, je pense notamment à une partie du Lys 31 qu'on avait joué chez ton frère Erwan. La partie était géniale, on s'était bien marré, on avait réussi à... Mais il y avait des enfants et les enfants nous ont dit que effectivement ils avaient des difficultés à trouver leur place sur parole. Donc par rapport à ça, les enfants qui sont un peu mis de côté par la parole.
Ouais. Juste, ça peut arriver à tout le monde. Si vous êtes dans un style directif, sachez vous excuser et à comprendre que la prochaine fois, il faudra faire gaffe. Ça arrive à tout le monde.
On a le droit à l'erreur.
Ouais,
c'est juste qu'effectivement, il faut pouvoir le dire. Bah, j'ai fait une erreur. Quoi.
Ouais. Après, quand t'es à fond dans une partie du jeu comme ça.
Et puis c'est important de pouvoir verbaliser qu'on a fait une erreur parce que ça montre à l'enfant que c'est pas la
que
façon de faire en fait. Et puis c'est pas comme ça qu'on doit jouer.
Oui, c'est vrai, t'as raison.
Et du coup, en fait, ça montre à l'enfant que l'adulte a fait une erreur, donc c'est pas comme ça que je dois faire. C'est aussi l'intérêt du style directif, en fait.
C'est
parce que dans le style autoritaire et dans le style permissif, et dans l'autre style désengagé, on ne verbalise jamais ses erreurs en tant qu'adulte, parce que l'adulte est censé être celui qui détient la vérité, entre guillemets, donc il ne peut pas être remis en question, donc il ne peut pas faire d'erreur. Donc en fait, ce que vous faites est forcément parfait. Donc non seulement les enfants, du coup, vont reproduire ce genre de choses, mais en plus, au moment de l'adolescence, vous allez vous ramasser plein la gueule.
Je veux dire que les familles autoritaires vont faire des enfants autoritaires, qui vont venir des parents autoritaires, qui vont faire des enfants autoritaires.
à l'adolescence, ça va exploser, devenir permissif pour faire l'extrême inverse. Tu vois. Donc moi, l'idée, c'est vraiment, si ça arrive à tout le monde de faire une erreur en jeu de rôle et de faire une erreur en général et d'avoir
partout dans la vie. Hein.
Voilà. Et donc, dans ces cas-là, on s'excuse quand on est un adulte, même si on a fait une erreur face à un enfant.
Très bien, très bien. Eh ben merci beaucoup Flavie pour ce podcast, c'était vraiment très très intéressant.
Merci beaucoup.
Il y a plein de manières en fait d'aborder ce sujet, t'as choisi de l'aborder sous le style éducatif, là sous l'aspect de ces différents styles éducatifs, c'est original. Merci beaucoup à toi d'avoir préparé cette émission, c'était vraiment intéressant.
Carrément.
Merci Jérémy.
Au revoir.
À très bientôt.
Salut.
Tout le monde, portez-vous bien et surtout jouez bien avec
Salut.
Des enfants.
Ouais.
Voilà. C'était le podcast de La Cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.